Bienvenue à cette conférence sur l'origine des horoscopes de presse et en France. Et c'est vrai que j'ai oublié de prévoir un cadre pour me présenter, alors je me présente. Donc Serge Brett-Morel, je suis l'ex-président de l'Observatoire Zététique, qui est une association donc de zététique aussi, mais sur Grenoble. Si vous connaissez peut-être un peu nos interventions, nos différentes interactions sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, etc. J'ai la particularité d'être un ex-astrologue, donc j'ai connu le sujet de l'intérieur et j'en suis sorti pendant il m'a fallu des années pour en sortir, mais ça me donne des compétences techniques qui me permettent de renouveler un petit peu le sujet, comme vous allez peut-être le voir. Et voilà pour ma présentation. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous promettre du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. C'est vraiment la citation de Churchill. Mais quand même quelques frustrations. Et je m'en excuse par avance. On ne vous avait pas prévenu d'ailleurs, enfin, c'est un peu normal. Je vais quand même commencer par remercier le CZLR pour son invitation. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ça me fait plaisir de revoir des gens aussi. Ça me fait plaisir de participer à un week-end zététique. C'est quand même assez rare et vraiment à encourager. Merci déjà pour l'organisation. Et puis, en fait, je vais vous parler de ce qui devait être au départ un petit dossier. Je pensais plier ça en 2 semaines, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à chercher. Et puis, finalement, ça s'est transformé vraiment en une grande enquête, un rebondissement. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Il y a tellement de choses que j'ouvre quand même pas mal de pistes. Et souvent, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout. D'où les quelques frustrations que j'ai évoquées au début. Donc je m'excuse par avance de ne pas pouvoir tout approfondir, il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'on va passer un bon moment, c'est assez inimaginable. Et je vous propose donc de remonter le temps, on va remonter dans les années 30 pour commencer, après vous verrez. D'abord la question, l'origine des horoscopes, quel est l'intérêt de se poser cette question? Puisque un horoscope c'est un objet en soi qui n'est pas intéressant. Et en fait, on peut se poser la question de l'origine d'un objet sans intérêt, et quand même, comment est-ce qu'il naît en France? Parce qu'on a déjà un petit peu des idées pour ailleurs, mais pour la France, on n'en a pas. Et puis d'abord, pourquoi ça n'apparaît pas avant les années 30? Parce que on pourrait penser que c'est aussi vieux que l'astrologie, et puis qu'en fait, on a toujours eu. Mais non, les horoscopes de presse, en tout cas, c'est pas avant les années 30, officiellement. En fait, les seules sources qu'on a aujourd'hui, c'est on a vraiment quelque chose en 1932. Le premier texte qu'on a, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est un journal d'astrologie qui, un jour, on ne sait pas pourquoi, les astrologues ne savent pas non plus, en 1932, paf, il y a des prédictions qui apparaissent pour les signes, alors Bélier, Taureau, Gémeaux, etc. En 1932, je crois que c'est sur la côte ouest des États-Unis. Je crois que 2 jours après ou 1 semaine après, il y en a un autre qui apparaît sur la côte est, et on ne sait pas non plus, les gens ne se connaissent pas, mais bon, ça, il faudra approfondir. En Angleterre, c'est en 1936 que, en tout cas, le premier horoscope signe par signe apparaît, et donc il y a toute une démarche, ça prend des mois à se mettre en place, et c'est vraiment en 37 que ça rentre dans la presse anglaise, mais ce n'est pas ce dont on va parler. Et nous, on va parler de la France, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je vais le réexpliquer après, il semble que le premier horoscope signe par signe apparaît en 1939, dans Marie-Claire. On va parler de Marie-Claire aujourd'hui, et la revue Marie-Claire. J'ai eu le plaisir de parcourir 2 ans de numéros de Marie-Claire, c'était particulier. Et la question moi, que je me suis posée petit à petit dans mon enquête, c'est est-ce que les horoscopes signe par signe apparaissent aux États-Unis, puis petit à petit ils se répandent, on les retrouve en Angleterre, et puis après ils se répandent, on les retrouve en France. Ça serait bien, quoi, ça serait pratique. Mais le problème, c'est que les premières choses que j'ai trouvées ne me permettaient pas de conclure à ça. D'où l'idée de convergence, juste pour embêter Thomas, convergence, un peu comme la convergence évolutive. C'est-à-dire que est-ce que l'essor de la presse de masse a pu générer un environnement pour les astrologues qui a mené à la création de ces prédictions comme ça, qui n'existaient pas avant. Et dans ces cas-là, ça apparaît aux États-Unis, en Angleterre, en France et ailleurs. Bon, c'est une question que j'étais obligé de me poser un moment ou un autre. Là, je commence à avoir certaines réponses à apporter, vous allez voir. D'abord, pour bien comprendre aussi, quel est l'intérêt de la question, quand on pratique l'astrologie, un horoscope signe par signe, ça devrait même pas exister. C'est absurde. Astrologiquement parlant, c'est absurde. En fait, c'est pas absurde, c'est caricatural. Et bien, bon, ça reste quand même, pas légitime. Là, j'aime bien donner cette carte, si vous voulez. Ça représente, l'état du ciel du point de vue astrologique, présenté à gauche et à droite, donc c'est le même ciel. À gauche, c'est en retenant la plupart des facteurs que l'astrologue utilise dans une consultation astrologique, par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses, c'est complexe, c'est compliqué. À droite, c'est la même carte qu'on pourrait utiliser pour établir un horoscope tel qu'on le trouve dans la presse. C'est-à-dire que c'est vraiment hyper simplifié, et il y a la majorité des paramètres qu'on ne peut pas utiliser de toute façon. Je ne rentrerai pas dans le détail, hein, ce n'est pas le but ici, mais c'est pour dire que souvent vous entendrez des astrologues protester contre les horoscopes de presse en disant « mais un horoscope, il n'y a quasiment rien dedans, on ne tient pas compte de ceci, de cela, etc. » Donc moi déjà, l'idée que j'avais, c'est de me dire bah, « c'est pour ça que ça n'existait pas avant. Il a fallu un jour qu'il y en ait un qui le fasse en premier peut-être, ou quelque chose comme ça, mais ça ne devrait pas exister normalement. Donc, pourquoi est-ce que c'est apparu ? C'est vraiment une question qu'on va se poser. » Ensuite, j'ai publié un livre en 2016 parce que j'étais tombé sur le travail d'une astrologue qui s'était intéressée à l'Angleterre. Et donc, en 1936, dans les années 30, comment les horoscopes et l'astrologie intègrent-elles la presse ? Et ça amène à des surprises. Enfin, c'est rocambolesque, quoi. C'est très, très drôle. Et donc, c'est à l'occasion de la naissance d'une princesse. Et trois semaines après, il y a le crash d'un dirigeable qui fait 40 morts. Et il se trouve que l'astrologue avait fait une prédiction et il se retrouve célèbre. Mais en fait, sa prédiction était mauvaise, mais bon, c'est pas grave. Et puis, en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait en Angleterre, dans les années 30, des horoscopes qui étaient diffusés donc à la radio, mais qui étaient diffusés au cinéma aussi, et puis qui se vendaient sur des disques. Et c'est très, très, très surprenant. Et puis en plus, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et tous les prévisionnistes avaient prévu la paix. Ils ne prévoyaient pas la guerre. Et c'est vraiment, pour moi, ce que je retiens de ce premier dossier, c'est de la surprise. Donc ma question, c'était, est-ce que ça va être pareil pour la France ? Et donc, c'était l'un de mes intérêts. Donc, entre guillemets, l'hypothèse zéro, ce que j'ai conclu de l'Angleterre, c'est qu'il y avait tout un tas de concours de circonstances qui ont fait que, petit à petit, l'astrologie est arrivée dans la presse et les horoscopes ont été créés là. Mais il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas une réussite astrologique qui pourrait expliquer le pourquoi du comment. C'est vraiment des affaires de concours de circonstances. Il y avait aussi un petit truc qui ne m'avait pas échappé, mais bon, j'avais pas le temps. Dans mon dossier, en fait, je dis que les horoscopes signe par signe apparaissent en 36. Et en fait, vraiment, en 37, donc en Angleterre, il se trouve qu'on a des protestations contre l'utilisation des signes astrologiques à 3 ou 4 ans avant. Donc on a des protestations qui sont antidatées sur la création des horoscopes. Donc il y a un truc qui ne va pas, on ne peut pas protester contre quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, ça montrait qu'il y avait un problème. Maintenant j'ai la réponse à ça, normalement. Mais voilà, moi c'est aussi une question que je me posais en me disant, mais alors est-ce qu'ils sont vraiment apparus aux dates auxquelles on pense ou pas ? Donc c'est une autre question qu'on va se poser. Enfin, on sait, je vais en reparler après, que dans Marie-Claire, l'astrologue qui s'appelait Marie-Louise Sondaz, avant qu'elle publie le premier horoscope signe par signe, a publié un horoscope pour les brunes, les blondes et les rousses. Et ça, je voulais le voir de mes propres yeux, en fait. Parce que je le savais, je l'avais déjà lu et tout ça, mais c'est tellement inimaginable. Je me disais, ça, je voudrais quand même le voir. Et puis, j'ai commencé à me dire, mais sur le site de la Bibliothèque nationale de France, ils ont numérisé des millions de documents. Peut-être qu'ils ont numérisé Marie-Claire. Et c'est comme ça que mon travail commence. En fait, je me suis dit, je vais aller trouver ces horoscopes, et puis je vais faire un petit dossier, et puis voilà. Donc c'est une des raisons. Plus profondément, ça peut permettre de documenter un peu les situations et essayer de comprendre les mécanismes de propagation des croyances collectives en général. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, ça permet de donner des pistes. En fait, ce dont je vais vous parler, c'est moins de l'histoire de l'astrologie que de l'histoire de la presse. En fait, vous allez voir, on est vraiment dans la presse et il se passe énormément de choses. Et bon, les astrologues se rendent même un petit peu de côté. Donc, La seule source qu'on a pour l'instant, c'est en fait un travail qui a eu lieu à la fin des années 60, un moment où l'astrologie revenait en force un petit peu, dans les médias, dans tout ça. Et c'est le Nouvel Obs qui avait commandé donc une étude sociologique à un groupe de sociologues, dirigé par Edgar Morin et Claude Fischler. Et ils ont publié un numéro spécial qui s'appelait donc « Le retour des astrologues » et une enquête diagnostique, etc. Et qui a donné lieu ensuite à un ouvrage. Cet ouvrage très complet d'un point de vue sociologique s'intéresse à pourquoi on croit en l'astrologie, comment, tralala. Et il y a un petit chapitre sur l'origine des horoscopes. Donc c'est vraiment la source qui a été la mienne en premier. Le livre a été mis à jour 10 ans plus tard. Donc c'est pour ça que des fois vous trouvez deux ouvrages pour cette étude. Donc il y en a un autre qui s'appelle « La croyance astrologique moderne ». C'est le même. Et il doit y avoir un chapitre en plus puisque ça se passe 10 ans après. Donc si vous êtes intéressé à ces questions, ce ne sont pas deux livres différents, en fait c'est la même étude, mais mise à jour 10 ans plus tard. C'est vraiment la presque seule source. Si aujourd'hui vous cherchez quelque chose sur l'origine des horoscopes en France, soit vous tombez là-dessus, soit les gens qui disent des choses se réfèrent en fait à cette étude. Donc pour un zététicien, c'est super intéressant de se dire, et si on allait vérifier un petit peu les sources de l'étude en question? Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc, moi aussi, c'est ce que je disais dans mon livre, en fait, le peu que j'en dis, c'est se réfère justement à cette étude. Donc, il n'y a quasiment rien là-dessus dans mon livre, mais en tout cas, je fais comme les autres à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le livre que j'ai publié il y a 2 ans. Donc, pour mettre en contexte cette enquête, quelles sont mes sources pour les regrouper en 3 catégories, on va dire. D'un côté, je suis allé voir un peu ce qu'écrivent les sociologues et certains historiens. Je suis allé voir ce que disent les astrologues eux-mêmes, quand ils racontent ça ou quand ils en parlent, et ce qu'en disent les sceptiques, juste pour voir. Alors vous allez voir que ça va très vite, en fait, il n'y a pas grand-chose. Et donc, comme je vous le dis, mon projet initial, c'était de visualiser, c'est-à-dire de retrouver les documents, de retrouver les horoscopes. Donc je vais vous montrer les premiers horoscopes aujourd'hui dans la presse, qu'on a eus notamment dans les années 30. Donc, en 71, l'équipe de Morin, le sociologue, pose son étude. Et donc, elle s'intéresse beaucoup à la question de la presse de masse, notamment dans les années 30. Donc, pour aller vite, ce qu'on va aller vérifier, c'est qu'en 1932, il y a un tout premier horoscope qui paraît dans le journal de la femme, donc la presse féminine. L'astrologue, c'est Louis Gastin, son pseudonyme, c'est Todd Hermès. Donc, on verra. Et 3 ans après, on a d'autres horoscopes qui arrivent cette fois dans la grande presse, la presse populaire. Et donc, dans Gringoire et Paris Soir. Donc pareil, on ira voir avec un astrologue qui s'appelle Carnais. Et plus tard, de 37 à 39, on a d'autres horoscopes qui apparaissent dans la presse à sensation. Voilà, Minerva, Ève, etc. Et donc, et après, on va avoir donc Marie-Louise Sondage, mais c'est juste après. Et donc, ce que disent les sociologues, c'est que les premiers horoscopes de presse sont, entre guillemets, primitifs, dans le sens où on n'a pas des prédictions personnalisées. Donc là, je vais vous donner quelques exemples. Après, on parle de météo astrale collective, du même style que « demain il fera beau », on peut vous dire « ah, mais demain, il y a de bonnes influences astrologiques ». Voilà, après, vous en faites ce que vous voulez, mais initialement, ça démarre comme ça. Le premier horoscope avec les 12 signes, selon Morin, c'est donc Marie-Louise Sondage dans Marie-Claire, et c'est en 1939, donc c'est juste avant la guerre. Et il le présente un petit peu comme le format idéal, puisque c'est celui qu'on a maintenant, qui est partout. Et donc, on va se poser aussi la question, est-ce que c'est vraiment un format aussi idéal? Donc, quand Marie-Louise Sondage crée donc cet horoscope-là, auparavant, elle a fait comme les autres, une météo astrale, on va dire, vague. Je vais vous montrer des images après. Et donc, ce fameux horoscope pour les brunes, les blondes, les rousses, et même les châtains. Et selon Morin, donc, les horoscopes disparaissent pendant la guerre. Une autre source, parce que j'en ai pas trouvé d'autres, en 2006, dans une autre source, on lit qu'en 1932, une rubrique astrologique paraît régulièrement dans le journal de la femme. Elle est tenue par l'astrologue Louis Gastin, alias Todd Hermès, sous le pseudonyme d'Arcturus. Il en rédige une autre, intitulée « Les mystères de la destinée pour Gringoire ». Donc là, on se rend compte que Gringoire, que j'ai cité là-haut, c'est le même, finalement, 3 ans après. Et c'est tout. Les sources sociologiques et historiques, il n'y a rien. En fait, vraiment, personne n'a travaillé sur le sujet. Qu'en disent les astrologues? Alors, si je prends les livres, je les classe dans l'ordre de leur parution. En 1955, il y a un astrologue qui dit « Le fakir birman aurait accaparé des pages entières dans Paris Soir ». Alors, le fakir birman, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas pour l'instant. Donc, on va aller voir un peu qui est ce fakir birman. En 65, il y en a un autre qui écrit « Dans les années 30, des milliers de fakirs, mages, professeurs, tinrent boutique de foire ou cabinet de consultation luxueux dans le 16e arrondissement. » Alors là, on se rend compte qu'il se passe d'autres choses, et là, on sort du cadre de la presse. Et donc, est-ce qu'il y a un rapport ou pas ? En tout cas, c'est présenté comme en lien avec l'origine des horoscopes. Donc ça, on va aller voir. En 70, un autre livre, « Le fakir birman a l'idée géniale de publier des horoscopes quotidiens, tous préparés pour chacun des signes du zodiaque. Succès tout de suite éclatant, même procédé utilisé à grande échelle dans le monde entier. Hein, » Ah, donc ça serait parti de France pour aller dans le monde entier. Alors nous, on a déjà les dates, on sait que c'est pas vrai, hein, y a des horoscopes avant ailleurs. Mais bon. En 86, le fakir birman est attaqué en justice pour escroquerie à cause de ses six mauvais horoscopes. Bon, donc le fakir birman revient régulièrement. Hein. En 95, protestation contre les prédictions signe par signe dans du journal de la femme. Donc le 11 novembre 1933. Alors ça, c'est un astrologue qui écrit ça. En fait, ce qu'il dit là, c'est qu'on retrouve le même paradoxe qu'en Angleterre. C'est-à-dire qu'en 1933, il y a des gens qui protestent contre l'utilisation des signes astrologiques alors que les horoscopes n'existent pas encore. Les horoscopes des signes. Alors ça, c'est intéressant. On voit deux fois le même paradoxe. Donc il doit y avoir vraiment quelque chose. On va en parler. Et ça, je suis obligé de le dire, quoi. En 2001, donc, si vous avez entendu parler d'une astrologue qui s'appelle Elisabeth Tessier, qui a soutenu une thèse de sociologie en 2001, dont la carrière consiste à rédiger des horoscopes pour la presse, elle a fait ça 40 ans, tout ce qu'elle met dans sa thèse, qui fait, je ne sais plus, 600 ou 700 pages, elle dit que le premier horoscope apparaît dans le journal de la femme en 1932. Et voilà. Alors que c'est sa carrière, c'est sa vie, elle a fait un travail sur l'astrologie, etc. Il n'y a rien d'autre. Vraiment, c'est un sujet qui n'a pas été exploré, qui n'a pas l'air très intéressant. Alors en fait, il y a un vieil astrologue qui doit avoir la centaine maintenant, donc qui était déjà né dans les années 30, même s'il était encore jeune. Et alors lui, il écrit quelque chose, alors c'est la seule source où il y a un peu plus de contenu quand même. Avec l'apparition de la presse astrologique des années 30, s'est bien vite répandu un abject trafic des étoiles. On a vu sortir du bois tout un gibier de professeurs. On a encore ces professeurs qui reviennent. Elroy, Roxroy, Gemaro, Omar Khan, Valentino, etc. Alors là, on a plein de nouveaux noms. Donc moi, ben voilà, je vais pouvoir chercher ces noms, voir un peu qui sont ces gens. Chacun offrant un horoscope gratuit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un horoscope gratuit qu'on peut offrir aux gens? On va aller voir aussi. Naturellement, une feuille renéotypée avec sa tartine anodine et flatteuse, mais habilement assortie de son amorce. Votre cas particulier m'intéresse, j'ai décidé de vous donner un tour de faveur, il y va du bonheur de votre vie, la chance est à saisir qui ne se renouvellera pas, je ne puis pour l'instant en dire davantage. Bon, ça sent l'escroc quand même. Hein. Donc, voilà. Le fakir birman, encore, revient, devenu un véritable trust à coup de grands placards de publicité dans les plus grands quotidiens. En 38, ses 50 secrétaires brassaient un demi-million de fiches de clients. Ah, alors là, on est très loin de l'image qu'on avait d'avant. Il va falloir vraiment aller fouiller. Moi, c'est vraiment à ça que je vais vous inviter. Vous allez voir, c'est assez fabuleux. Chaque matin, deux voitures postales apportant 20 à 30 sacs de lettres, dont la moitié contiendrait des timbres-postes ou des mandats. L'affaire finit en 39 devant les tribunaux. Bon. Eh bien, je crois qu'on va pas aller chercher tout à fait ce qu'on pensait aller chercher. Et en 2008, les prédictions signe par signe apparaissent en France au milieu des années 30, pour la première fois dans un magazine féminin, Marie Claire, à l'imitation de la presse nord-américaine. Donc c'est très très léger. Si vous cherchez un peu sur les blogs actuels, sur les 2-3 dernières années, il y a des gens qui parlent encore du fakir birman, mais en général, ils se réfèrent à d'autres qui parlaient du fakir birman et on n'en sait pas plus. Que disent les sceptiques? Est-ce qu'ils ont déjà cherché un petit peu les sources? Alors, en 78, Paul Couderc, un astronome, les journaux quotidiens et plus encore les hebdomadaires ont été les véhicules du microbe par vénalité et par ignorance. Rien d'autre. En 91, la vague des horoscopes à caractère général commence en 1930. En 39, l'horoscope s'individualise grâce au signe du zodiaque, donc on n'en sait pas plus. Entre les deux guerres, la presse prend l'habitude de publier des horoscopes, etc. Signe des temps, les premières rubriques astrologiques paraissent dans les journaux des années 30. Et donc, moi, dans mon livre, je mets juste 10 lignes qui se réfèrent à l'étude de Morin, donc je parle un peu des horoscopes sur la couleur des cheveux. Rien d'autre. Il n'y a vraiment rien d'autre. Donc, même les sceptiques ne sont pas vraiment allés approfondir la chose, donc je précise bien pour la France. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, ben, il semble que ben, c'est la première fois qu'on en parle. Donc pour mon dossier, vraiment, l'idée, c'était d'aller visualiser, comme je vous l'ai dit, les horoscopes, sachant que l'étude de Morin, mine de rien, ça fait quasiment 50 ans qu'elle existe. Donc on va essayer de remettre des choses à jour. Donc je suis allé voir, j'ai cherché le premier horoscope, et où est-ce que... Non, je ne sais pas encore. Et donc, je vais essayer d'aller chercher cet horoscope en 39. On va après essayer d'aller voir donc, en 35 dans Paris Soir et Gringoire. Après, on ira voir en 32 pour le Journal de la Femme. Et puis, ben, y a l'histoire du Fakir Birman. Il faut qu'on voit ça aussi, parce que c'est quand même louche et il revient souvent. En 39, le premier numéro de Marie-Claire paraît le 5 mars 37. Marie-Louise Sondaz, c'est cette personne, va publier son premier horoscope, alors pas en 39, moi j'en ai trouvé à partir du printemps 38. Mais il semble qu'auparavant, elle a commencé dans le magazine Voilà, qui est un magazine à sensation, mais que je n'ai pas pu consulter. Donc, je vais souvent dire ça, malheureusement, voilà, cette source-là, je n'ai pas pu la consulter encore. Alors, c'est un horoscope qui est court, qui n'est pas toujours signé, c'est bizarre, et qui paraît tous les 15 jours, alors que Marie-Claire est hebdomadaire. Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. De toute façon, je vais donner d'autres exemples après. Mais si vous voulez, c'est très généraliste dans le sens « voici une bonne quinzaine pour le travail intellectuel ». Donc c'est vraiment destiné à tout le monde, s'il n'y a pas de prédiction personnalisée. C'est une rubrique parmi d'autres, composante de rubriques dans Marie-Claire, qui s'appelle « Variété, pêle-mêle ou entre nous ». Ça ressemble à ça. Donc si vous prenez deux pages de Marie-Claire, voilà, vous avez la rubrique « Entre nous ». Et puis, bah, vous avez l'horoscope en bas, vous avez un truc sur les marches et les démarches, il y a des lettres à gauche. Enfin bon, c'est une rubrique de loisirs, en fait. L'horoscope, donc, a commencé au printemps. À la rentrée, il devient hebdomadaire. Donc, on est toujours dans des généralités. Vous voyez, là, elle parle du signe de la Vierge. Elle dit juste, nous passons sous le signe de la Vierge, qui est favorable à toutes les manifestations intellectuelles. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout toujours dans les prédictions personnalisées. En fait, son horoscope, bah, c'est une météo astrale, comme ce que font les autres à ce moment-là. Et bien qu'en Angleterre, Naylor, lui, ça fait déjà un an ou deux qu'il a commencé à passer au signe astrologique. Donc déjà, il n'y a pas de communication directe, manifestement. Elle parle souvent des périodes d'examen. Ça doit être important pour elle, et je pense pour la femme. Je ne sais pas si on peut dire que c'était une féministe avant l'heure, mais en tout cas, elle était assez engagée. Et donc, un an après, au printemps 39, le premier horoscope distinguant l'électrice entre blonde, brune, rousse et châtain, on le trouve, mais il est plus long, et il est maintenant sur deux pages différentes. Alors, on a des dates de naissance parfois, mais on voit bien que le critère principal, c'est la couleur des cheveux. Hein. Et pour les dates qui s'y réfèrent, des fois on a des dates de 10 jours, des dates de signes astrologiques, et ça ressemble à ça. Donc, ça commence sur une page, ça se termine sur une autre. Et donc, c'est du style, si vous êtes brune, aînée du 1er au 10 mai, vous traversez la période la plus brillante de votre année. Plus loin, si vous êtes née du 5 au 20 septembre, vous avez la même chance, vous pouvez agir en conséquence. Si vous avez les cheveux très noirs, c'est peut-être pas pareil que noir, on ne sait pas, modérez vos instincts combatifs, ou plutôt ne les employez pas sur le plan commercial. Mais si vous êtes blonde et née du 21 juin au 21 juillet, ne vous abandonnez pas à l'humeur mélancolique. On se demande où elle va chercher ça, c'est très très surprenant. Donc là, on est au printemps 39, et on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi, c'est complètement surréaliste, on est vraiment dans la superstition au sens propre du terme. En fait, Marie-Louise Sondaz a publié quelques livres. Dans l'un d'entre eux, on trouve ce schéma qui montre une main dans laquelle il y a des symboles des planètes. Donc manifestement, je ne sais pas, selon les lignes qu'on a, les informations qu'on peut retrouver dans la main, on est vraiment dans le mélange, le fatras un peu. Et si on se réfère à son autobiographie, on peut arriver à comprendre un peu mieux, un peu son cheminement. Elle explique que la rencontre avec la physiognomonie a changé sa vie. Alors la physiognomonie, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est le fait de penser que le caractère d'un individu transparaît dans les lignes et les formes de son corps, que ce soit des mains, du visage, des cheveux, les couleurs des yeux, etc. Bon, c'est un truc c'est une vieille superstition, on va dire, mais c'est devenu une discipline à part entière. Et ceci parce que les cordons nerveux qui commandent des activités psychophysiologiques se croisent au niveau du cervelet. Ça a l'air sérieux quand même. Ça a l'air sérieux. Où est-ce qu'elle va chercher ça ? La logique du raisonnement, en fait, pour elle, hein, parce qu'elle y croit, hein, c'est que si le corps et l'astrologie renseignent sur l'esprit, chacun de son côté, forcément, il doit y avoir un lien entre les astres et le corps. D'où le lien avec la main, les astres, etc. Ben, elle pense vraiment qu'elle trouve des choses là. Et donc, on va remettre tout ça en contexte, parce que c'est plus surprenant qu'on pourrait le croire. Il y a une historienne qui s'appelle Nicole Edelman qui a publié un livre qui s'appelle « L'histoire de la voyance ». Alors, je ne sais pas pourquoi elle l'a appelé comme ça, parce que l'essentiel du livre, c'est l'histoire de l'astrologie au XXe siècle. Et donc, notamment des horoscopes et du milieu astrologique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un passage dans lequel elle explique qu'en 1934, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un grand projet d'encyclopédie française. Mais en 1938, dans le tome 8, qui est consacré à la psychologie, il y a un chapitre entier consacré aux sciences en formation, dont la chirologie, le fait de lire les lignes de la main, la graphologie et donc la physiognomonie. Il semble que c'est vraiment dans l'air du temps, en fait. C'est pas Marie-Louise Sondaz d'elle-même qui a fait des relations. Si on lit ce qui est écrit dans cet ouvrage, dans le cadre d'une psychologie appliquée, il est nécessaire de poursuivre l'étude des comportements en s'intéressant notamment à la main par le biais de l'écriture et au visage. Les liens entre occultisme, c'est-à-dire les sciences occultes, et la psychologie, qu'on appellera les sciences actives, sont certes dangereux mais aussi féconds, car l'occultisme est une attitude qui devient antiscientifique dans les faits, sans l'être dans les principes. Ainsi, dans une gangue de rapports sous l'ordre chimérique, ces disciplines transmettent quelque part celles d'expériences authentiques et l'intuition de corrélation à déchiffrer. Il y a peut-être quelque chose de vrai à aller trouver dans ce fatras un petit peu, etc. Donc c'est pour dire que c'est à la mode dans les années 30, en tout cas c'est des questions qu'on se pose, et il semble qu'il y a des travaux sur le sujet. En fait, pour Marie-Louise Sondaz, la chirologie, c'est un vrai test de caractère, parce qu'à cause des liens entre les mains et les systèmes nerveux et endocriniens. Moi, c'est des choses que j'ai trouvées dans son autobiographie, hein, j'en ai convaincu. Je ne sais pas si vous connaissez ces images qui ont des siècles et qui montrent ce qu'on appelle l'homme zodiacal. Il y a très longtemps que les médecins associaient des parties du corps à des signes astrologiques, des choses comme ça. Et ben pour elle, il y a un lien entre le visage gauche, la main droite et le thème de naissance. Donc elle est vraiment allée dans le détail. Et encore mieux, elle a trouvé un lien entre le visage droit, la main gauche et le thème de conception. En fait, il y a un vieux débat entre les astrologues, est-ce qu'il faut utiliser le thème de naissance ou le thème de la conception ? Bon, il n'y a pas de moyen de répondre à cette question. Bah, elle a peut-être trouvé une réponse, mais Marie-Louise Sondaz est persuadée d'être à l'avant-garde du progrès scientifique. C'est terrible, mais c'est vraiment ce qu'il y a derrière ces horoscopes pour les blondes, les brunes et les rousses. C'est n'importe quoi, hein, ça part en vrille. Mais en tout cas, elle, voilà, les raisons pour lesquelles elle publie ce genre de choses. Et elle explique même, je m'appliquais à débarrasser l'astrologie de ses erreurs, de son jargon, de ses calculs improbables, et m'attachais à la reconstruire selon les données actuelles de l'ethnologie et des sciences de l'observation. Donc un astrologue ou une astrologue qui se dit, je vais révolutionner l'astrologie, je vais enlever tout ce qui ne va pas, toutes les bêtises, c'est juste un lieu commun. Hein. C'est quasiment tous les astrologues le pensent. Et puis, à toutes les générations, il y en a une dizaine qui lancent une nouvelle astrologie, un nouveau truc, un machin. Je veux dire, c'est pas la première. Hein. Mais en gros, pour elle, si vous êtes rousse, alors on peut faire des liens avec l'astrologie, etc. etc. Ah, donc on est vraiment dans un monde loin d'une autre. Hein. Évidemment, elle ne nous parle pas de ses protocoles expérimentaux, comment elle a établi des corrélations entre machin et truc. Ça n'existe pas, ça, hein, chez les astrologues. Voilà. Et donc, ça, c'est pour vous donner le fond du truc. Et son horoscope pour les blondes brunes, etc., va durer du printemps 39 à juin 39. Et donc, dans ces horoscopes, on a les couleurs des cheveux et de temps en temps des périodes de naissance qui varient, c'est pas toujours un mois. Et donc, c'est le 16 juin 39 que d'un coup, on a uniquement les dates des signes astrologiques. Et elle ne justifie pas ce passage. Donc, on aurait espéré qu'elle dise pourquoi elle fait ça. Ça n'apparaît pas. Et donc, quand je vais vous le montrer, et on peut voir que c'est nouveau quand on voit que le format est en train de se créer. Et notamment, il y a les dates des 12 signes, mais il n'y a que 10 paragraphes. Il n'y a pas, il y a pas 12 paragraphes. Et il n'y a pas les noms des signes non plus. Donc, le premier horoscope dans Marie-Claire, ça ressemble à ça. Donc, le tout début de l'horoscope, si vous êtes né du 21 mars au 22 avril ou du 24 juillet au 24 août, vous entrez dans une période de chance sociale, etc. Donc là, vous voyez, par exemple, elle met deux signes dans la même prédiction. C'est un truc qui ne serait plus aujourd'hui. Non, on a vraiment 12 chacun de l'autre, etc. Et donc, la deuxième partie, c'est celle-là. En tout, ça fait 10 paragraphes. Et on a les dates des signes, on n'a pas les noms des signes. Et ça, c'est marrant parce qu'en Angleterre, il s'est passé la même chose en 1936 quand Naylor a créé ses premiers horoscopes. On voit pendant quelques mois qu'il met les dates. Des fois, il met les noms. Après, il met les dates en-dessus des noms, il met les noms en-dessous des dates. On voit qu'il est en train de chercher, il y a un truc qui n'est pas clair. Et là, c'est pareil pour elle. C'est pas naturel de dire si vous êtes bélier, alors. Si vous êtes taureau, alors. Et ça, on va en reparler aussi. Donc, elle commence ça en juin 39, et en septembre 39, ça s'arrête. Tout s'arrête, parce qu'en fait, il y a la déclaration de la guerre à l'Allemagne. Et on rentre dans l'autre problématique, on va dire, il y a aussi beaucoup de restrictions pour la presse, et la plupart des horoscopes qui existent à ce moment-là vont s'arrêter. Donc elle a fait ça pendant 3 mois. Et 3 mois seulement avant la guerre. Et on est donc 3 ans après que Naylor ait commencé en Angleterre, et là, comme ça, il n'y a pas de lien évident, sinon que ça ressemble un peu au début. Si maintenant on se remet dans le contexte vraiment des années 30, qu'est-ce qu'on trouve en termes d'astrologie dans la presse? En fait, il n'y a pas d'astrologie vraiment dans la presse. Ce qu'on trouve, c'est des petites annonces. Alors là, vous avez plein de petites annonces, ça se présente comme ça. C'est brut, c'est très très court. Donc chacun fait sa pub pour la chiromancie, le tarot, l'astrologie, etc. Et si vous regardez le trait d'en bas, je ne savais pas, mais il y en a qui sont experts dans la lecture du blanc d'œuf. La lecture du blanc d'œuf. Le marc de café, ça ne suffit pas. Donc c'est très 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 surprenant. En fait, il y a toujours eu des petites annonces hein, comme ça pour tout et n'importe quoi. Et par contre, il y a la rubrique sciences occultes qui vient d'apparaître. C'est au début des années 30 ou dans les années 20 que ça apparaît. Ce qui fait qu'on sent que le public s'intéresse à ces choses-là, même si ce n'est pas encore dans la presse. Dans les années 20, on trouve aussi des prédictions pour la nouvelle année, donc au début de l'année, pour l'année qui arrive. Et il y a des historiens qui se demandent si c'est pas comme ça que ça commence et après ça va lancer les horoscopes. Ça c'est juste une hypothèse. Les publications astrologiques existent mais elles sont vraiment marginales, hein, c'est tout petit, donc les astrologues sont entre eux en fait. Et il y a quand même un courant d'astrologie scientifique entre guillemets qui se développe depuis le début du XXe siècle, mais bon, on les retrouve pas là pour les horoscopes. Et donc on a une rubrique horoscopique façon météorologie astrale aussi qui apparaît dans le journal de la femme en 32. Ça s'appelle les éphémérides de la chance, et je n'ai pas pu trouver la source, donc je suis désolé, je ne peux pas vous la montrer, mais il semble que c'est vraiment, un peu ce qu'on a vu avec Marie-Louise Sondaz, donc demain il y a des bons influx, c'est une bonne journée, c'est une mauvaise journée, il y a peut-être Mars en carré à Vénus, ou des choses comme ça. Et donc il va continuer sa rubrique jusqu'en 1940, sans jamais se référer aux signes astrologiques. Donc en tout cas, si le format des signes astrologiques c'est un format idéal, manifestement, tous les astrologues ne se sont pas jetés dessus. Donc finalement, ce n'est peut-être pas un format aussi idéal que ça. Alors, on devait aller voir en 1935 dans la grande presse, donc Paris Soir, Gringoire, tout ça. Donc j'y suis allé, et effectivement, dans Gringoire, le 4 janvier 1935, apparaît donc un horoscope, je mets des guillemets. En fait, ce n'est pas vraiment ça, ça s'appelle les mystères de la destinée. C'est signé Arcturus, et c'est en fait l'astrologue du journal de la femme qui a un autre pseudonyme cette fois-ci. Et donc, cette fois-ci, c'est une tribune prosélyte. Donc, il est là pour venir expliquer en quoi l'astrologie c'est bien et que c'est une science et tout ça. Et il vient la défendre. Et il y a des prédictions, mais c'est juste une partie en fait de la rubrique. Et lui aussi, sa rubrique va durer jusqu'au 31 août 39, c'est-à-dire à la veille de la déclaration de la guerre. Et après, ça disparaît. Donc ça ressemble à ça, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de textes, et ce que j'ai mis en bleu, donc sur la partie droite du trait bleu, c'est vraiment ce sont des prédictions généralistes, et ce sont des prédictions pour le monde, on va dire, alors qu'en rouge, tout en bas à droite, ce sont des prédictions pour les personnes. Alors quand on dit des prédictions pour les personnes, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est la lune incite le lundi 7 aux études occultes et à l'entraînement psychologique, enfin voilà, c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas très intéressant. Si on grossit quand même l'intro, on retrouve des tas d'arguments d'autorité. L'astrologie en ces temps n'a que ça pour montrer sa valeur. Et donc le journal explique quand même qu'en créant cette rubrique, Gringoire a tenu à ce que sa rédaction fût assurée par un des plus sérieux adeptes de cette science occulte, dont le professeur Grasset, je ne sais pas qui c'est, disait qu'elle est la terre promise de la science officielle. D'autres collaborateurs signent son article du pseudonyme d'Arcturus, mais il a consacré plus de 30 années d'un labeur considérable à l'étude théorique et expérimentale de la vie mystérieuse, à sa mise au point conforme aux méthodes de la science moderne. C'est un savant, entre guillemets, dans l'acception moderne du mot, mais un initié dans toute la conception antique de ce type. Voilà, donc c'est un peu le background de l'astrologie du moment et des raisons pour lesquelles on peut y croire. Dans Paris Soir, c'est en avril 35 qu'on retrouve donc Kermeis, c'est le nom qu'on avait vu dans l'étude de Morin, et qui lance lui aussi un horoscope donc dans Paris Soir. Alors quand il le lance, donc il y a une annonce en première page à partir d'aujourd'hui, lisez dans La Vie à Paris, donc c'est pareil, c'est la rubrique loisirs, et donc l'horoscope, bah, c'est une rubrique parmi d'autres, et on aura l'horoscope quotidien de Paris Soir. Et lui, par contre, il ressemble, bah, il est beaucoup plus court, et encore une fois, ce sont des textes généralistes, tout le monde peut s'attendre à des contrariétés d'argent, etc., etc. Et donc, vraiment, les premiers horoscopes, manifestement, c'est comme ça, il n'y a toujours pas les signes astrologiques. Mais en fait, en cherchant bien, il y en a un autre qui s'appelle Influence quotidienne et qui apparaît dans l'Afrique du Nord illustrée. Alors là, j'ai vu qu'on pouvait avoir accès aux journaux des colonies, et donc des colonies francophones, et on verra, enfin, je vous dirais, il y a beaucoup de choses aussi à les trouver de ce côté-là. Alors là, ça s'appelle Science et Mystère, et vous voyez, c'est carrément un bloc, il y a deux pages, c'est très très long, et il y a plein de choses là-dedans, évidemment, l'astrologie est une science, la valeur de l'astrologie, les preuves, les arguments d'autorité, il y a plein de choses comme ça, c'est vraiment encore une tribune prosélyte, et puis vous avez des influences là, qui sont, donc je les ai mis en bleu, et qui sont un peu toujours pareils, des choses générales, mais par contre, il y en a une par jour. Alors ça, on ne sait pas ce qu'il y avait dans les autres qu'on a vus juste avant, par exemple. Et à droite, en haut à droite, c'est marqué « Consultation par correspondance ». Donc en fait, l'astrologue qui est là, il fait sa pub en même temps. Alors qu'aujourd'hui, on a un horoscope, on n'a rien d'autre. Là, c'est carrément aussi un moyen de se faire connaître. Si je grossis un peu, ça donne ce genre de choses. Donc voilà, des prédictions jour par jour. Et puis en rouge, j'ai souligné un endroit où il prévoit quelque chose vers 9h du matin, le lundi 28. Ouais, c'est très très précis, quoi. Donc vous allez voir en fait que les formats sont très très différents. Mais bon, quand on est dans les pseudosciences, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire ça part dans tous les sens, là. Et là, c'est vraiment ce qui va se passer. Alors lui, il a commencé en janvier 35, mais après Gringoire. Et d'ailleurs, au début de la tribune, c'est marqué que ce rendez-vous, on va dire, science et mystère, vient parce que on commence à le faire dans les journaux français. Donc il faut quand même que les journaux algériens le fassent aussi. Et donc lui commence en janvier 35 et ça va durer 2 mois. Et en fait, 2 mois après, pouf, ça s'arrête. Donc l'horoscope, c'est pas forcément quelque chose qui marche, manifestement. Ou alors, lui, ce qu'il en a fait, peut-être fait trop. Enfin, on va voir qu'il y a vraiment des formats très différents et que ils survivent pas toujours. Et enfin, j'ai envie de dire, en octobre 34, j'ai trouvé les causeries du Fakir birman, donc les causeries radiophoniques. Cette fois-ci, on est à la radio. Et donc, en octobre 34, on est donc avant les dates officiellement annoncées dans l'étude de Morin. Donc voilà, ça c'est nouveau, par exemple. Et le Fakir birman, donc, semble-t-il, intervenait, alors je crois que c'est à peu près tous les jours, à 20h30. Et qu'est-ce qu'il disait, par contre, ça, j'ai pas pu savoir. Je n'ai pas pu trouver de source pour savoir ce qu'il disait. Et oui, j'ai marqué octobre 34 au moins, parce que les documents que je consultais s'arrêtent à ce moment-là. Soit j'ai pas pu remonter avant, soit c'est ce jour-là qu'ils ont commencé à donner les programmes de la radio. Donc quand on fait une recherche de source, on est vraiment arrêté par ce genre de détails ou pas, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir accès toujours à tout ce qu'on veut. Et dans l'intransigeant, c'est à partir de fin novembre, en fait, 35, que le Fakir birman apparaît et va produire un horoscope quotidien. Alors, la première fois qu'il le fait, il met des encarts en première et en deuxième page pour pas qu'on le rate. Et il va faire ça, lui, jusqu'en avril 37. Donc, ça va durer, un an et demi, à peu près. Et lui, par contre, dans ses horoscopes, je vous en montrerai après, lui, il n'y a jamais un terme astrologique dedans. Donc, ça va aussi poser des questions sur comment il les fait. Et le Fakir birman, donc on va en parler, parce que je suis allé me renseigner, ça me piquait quand même, je me demandais un peu ce que c'était. Et vous allez voir que c'est quand même un personnage singulier, et ça va nous servir pour la suite. Donc d'abord, comme on vient de le voir, c'est pas du tout le premier à avoir publié des horoscopes. Vous pouvez le voir sur le net, il y a des gens qui affirment ça. Mais quand on va chercher, non, moi je n'ai rien retrouvé avant octobre 34 déjà, et j'ai trouvé des horoscopes avant, bien sûr. Le Fakir Birman fait parler de lui en janvier 32. Et là, on va rentrer vraiment dans l'univers dans lequel je vais vous emmener après. Le Fakir Birman, voici sa photo. Donc, on en parle comme l'indiscret télépathe, parce qu'il vient d'ouvrir un cabinet, et l'une de ses premières clientes, c'est la femme d'un chef d'orchestre célèbre, et elle soupçonne qu'il la trompe. Et lui, il va dans son sens, et lui dit, je crois que c'est marqué là-haut, je vois que vous souffrez, vos inquiétudes étaient là, justifiées, etc. Et donc, il lui confirme qu'elle doit se faire tromper. Et qu'est-ce qu'elle fait ? En commune furie, elle part, elle va, je crois, à l'opéra, elle interrompt une répétition, et puis, je crois que c'est ce qu'il explique là, « Méfiez-vous d'une dame brune qui est souvent proche de lui, etc. » Et donc, elle arrive, la pianiste était brune, elle se tenait sous la baguette du chef d'orchestre, c'était donc elle, et en plus, il y en a d'autres qui l'ont confirmé, donc c'est un scandale. Et il se trouve que le chef d'orchestre va l'attaquer en justice pour trouble de jouissance. Il est venu foutre le bordel, en gros, dans sa vie, dans son couple. Et donc, le tout Paris va s'intéresser à ça, les médias aussi. Le Fakir Birman va prendre un avocat qui va se régaler. Et évidemment, le chef d'orchestre va perdre. Et donc, ça va faire parler du Fakir. Donc, c'est comme ça qu'il commence à être un petit peu connu. Mais on reparle de lui en mars 32 dans l'intransigeant. Vous allez voir que c'est un cas quand même. En mars 32, il accepte de participer à un gala gratuit au profit de la Société pour la protection de l'enfance contre la tuberculose sur la scène de la salle Viagra. Il se fait enfermer la salle Wagram. Il se fait enfermer dans une cage de fer en compagnie de 114 rats affamés. Nouveau coup de chance pour l'imperturbable Fakir, la soirée finit en totale débandade. Un misérable fox terrier à poils durs grimpe sur la scène, s'acharne contre la cage, ouvre la porte. Les rats, le chien aux trousses se répandent dans la salle, déferlement de hurlements hystériques. Des femmes s'évanouissent, d'autres grimpent sur les fauteuils. Le Fakir, la barbiche frémissante, le turban de travers, contemple l'apocalypse. Le lendemain, les journaux sont pleins de sa rumeur et du nom du mystérieux héros. Donc, j'ai réussi à me procurer un magazine de l'époque, et donc j'ai même une photo. Voilà le Fakir dans sa cage, il y a même le chien là-bas, etc. Et le journaliste dit qu'en fait, il est resté complètement crispé dans sa cage, parce qu'il avait perdu le contrôle sur tout ce qui se passait, il était comme ça. Et même mine de rien, ça a joué pour lui, puisque donc ça a vraiment fait parler de lui. Et là, on voit vraiment qu'on est dans le monde de quelqu'un qui est en train d'essayer de se faire sa place, en fait. C'est du grand n'importe quoi. 6 jours après, commence à apparaître donc dans l'intransigeant sa première petite annonce quotidienne. Avant, il ne faisait pas de petites annonces. Alors, est-ce que le fait qu'on parle de lui dans le journal l'a incité à faire ça ? En tout cas, donc, son annonce, lui, ça sera sa marque. Dans l'ennui, venez à lui. Donc voilà l'annonce du Fakir Birman. Ça tient en 4 lignes, comme les autres que je vous ai montrées avant. Et en plus, il se paye le toupet d'ajouter « acquitté par l'exactitude de ses prédictions ». Ah, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et en fait, le but, c'est de se faire remarquer, en fait, par rapport aux autres, quoi. Et donc, il n'y a pas de texte, c'est juste ça. Et donc, acquitté par l'exactitude de ses prédictions, suite au procès qu'il a remporté. Il devient une personnalité mondaine. On verra plus tard qu'il va faire fortune, il va s'acheter un hôtel particulier. Et c'est vraiment un as de la publicité. Il va mettre des pubs de partout, notamment quand il y aura l'histoire de la création de la loterie nationale. Ça, on va en reparler. Pour donner une idée, il va même sponsoriser le Tour de France. Je crois que c'est lui qui va inventer l'idée de récompenser le dernier qui arrive de la course. Parce que vous savez, pour ne pas être éliminé, il y a un temps limite pour arriver chaque jour au Tour de France. Et donc, il y en a qui, dans ce cas-là, se battent pour être les derniers, pour arriver juste avant la fin. Et donc, quand il y a des primes. En 1937, à l'exposition universelle à Paris, il y aura un pavillon des sciences conjecturales. Et qu'on va lui proposer, c'est lui qui va organiser ça. Donc, il va vraiment avoir une notoriété. Et pour quelle raison ? Est-ce que c'est vraiment bien honnête ? Ça, on va en reparler. On dit qu'en 7 années d'activité, il aurait eu 500 000 clients, ce qui fait un Français sur 80 à l'époque. Ça fait beaucoup, quand même. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. J'ai fait le calcul. Ça fait à peu près 200 clients par jour. Donc, première chose, toujours vérifier les nombres qu'on vous donne, quand même, parce que 200 clients par jour, c'est pas possible. Et en même temps, si vous vous rappelez, il y avait un astrologue au début que je vous ai montré qui parlait de camions qui arrivaient chaque jour pour distribuer des sacs de timbres et qu'il avait 67 secrétaires. Et finalement, c'est peut-être pas si absurde que ça. C'est juste que ce n'est pas quelqu'un qui a un cabinet et qui consulte. Et il faut vraiment qu'on change nos représentations. Enfin, en tout cas, là, on parle de quelqu'un qui... On ne parle pas du tout d'un astrologue comme on le voit aujourd'hui. Et vous voyez, là, on est en train de s'éloigner un peu des premières idées qu'on pouvait avoir. Donc, pour résumer, c'est en mars 32 qu'il a commencé à poser ses petites annonces dans l'intransigeant et qui va évoluer, donc, on a vu, en horoscope quotidien, fin novembre 35, qui dureront donc jusqu'en avril 37. Pour donner une idée, avril 37, quelques mois après, il y a l'exposition universelle. Donc, en fait, il va passer à un autre niveau. Hein, le gars, il atteint une autre notoriété. Et bon, l'horoscope, c'est plus vraiment ce qui va l'intéresser. Alors, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est de me dire, mais alors, un horoscope, ça peut être une petite annonce. Alors, pour moi, un horoscope, c'était un astrologue qui faisait ça. Et même si c'est un escroc, même pour faire croire aux gens qu'ils peuvent trouver des réponses dans ce qu'ils proposent. Mais en fait, lui, c'est juste qu'il est dans la rubrique des petites annonces et il essaye de se faire remarquer. C'est un moyen de se distinguer, finalement, des petites annonces classiques aussi. Donc, c'est un procédé commercial, en fait. La différence, c'est que lui, il va être obligé de payer pour publier son horoscope. Alors, normalement, quand c'est une rubrique, c'est le journal qui rémunère l'astrologue. Donc, finalement, un horoscope, c'est pas forcément ce que c'est devenu aujourd'hui, en tout cas. D'ailleurs, il explique bien, parce que lui aussi a une autobiographie, à la radio, donc sa causerie tenait en 40 mots. Alors, j'aimerais bien avoir accès à ça, j'ai pas eu accès. Et donc, il payait alors 150 000 francs de l'époque à l'année. Donc, lui, il paye hein, pour parler, il fait sa pub, quoi, concrètement. Et jamais, jamais, il ne fera de classement en signe astrologique par signe astrologique. Alors, est-ce que c'est un vrai horoscope d'abord ou est-ce que c'est un faux horoscope? Moi, je vous l'ai dit, il n'y a jamais de terme astrologique dans son horoscope. C'est demain, tout ira bien, ou des choses comme ça. Et donc, j'ai envie de parler du filou birman pour l'instant. On verra que c'est plus grave après. Notamment dans le magazine que je m'étais procuré, où on le voyait en cage. En fait, c'était un spectacle, donc il a fait plusieurs numéros. Et il y en a un où il se fait clouer sur une croix, comme le Christ. Et il y a un journaliste qui s'est approché, qui a pris en photo et qui marque « Non, non, mais c'est un truc, en fait, le clou n'a percé que la peau entre les doigts. » Donc c'est un gros filou, en fait, le fakir. On se demande si c'est un vrai fakir. Et un autre truc qui m'a bien fait rire aussi, c'est qu'un jour, il y a un journaliste qui lui a demandé, au début du Tour de France, de faire des prévisions. Est-ce que vous voyez quelqu'un remporter le Tour de France plutôt qu'un autre? Et donc, il donne trois noms et il dit, ben voilà, ces trois-là, etc., ça devrait aller. Et évidemment, ce sont trois favoris. Donc, il ne prend pas trop de risques. Pas de chance, dans la semaine, les trois favoris abandonnent. Soit ils se blessent, soit il y a un problème, enfin, je ne sais plus. Donc, le journaliste revient le voir en lui disant, mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous nous avez dit que c'était les favoris et ils ne sont plus là. Et vous allez voir les gros sabots quand même. Donc, le fakir me prend doucement le bras et me désigne au milieu d'un invraisemblable fatras de chefs-d'œuvre de cosmographie, les horoscopes des coureurs du Tour de France. Voyons, ne trouvez-vous pas étrange que j'ai commencé par Archimbaud et Pélissier? Ne comprenez-vous pas que je savais qu'ils allaient être bientôt hors de course et que je n'avais pas d'autre raison pour commencer par eux? Et lisez et relisez ce que l'aéro a publié. Ne disais-je pas d'Archimbaud que la période devait être peu bénéfique et que Pélissier était à la merci d'un brutal coup du sort? Eussiez-vous préféré que je traduise avec plus de précision mon sentiment? Et donc le journaliste proteste et il continue. Mais on m'eût, monsieur, cassé la figure. Desgranges, je ne sais pas qui c'est, m'eût poursuivi. Ma maison aurait été saccagée, pillée, brûlée. En gros, il savait qu'ils allaient perdre, mais il ne pouvait pas le dire. C'est les grosses ficelles du fakir birman, quoi. Voilà, donc c'est le personnage qui va avoir un gros succès par la suite et qui va peser dans notre histoire. En fait, une nouvelle surprise pour moi, ça a été de voir, donc lui c'est le 2 novembre 35 hein, qui met son premier horoscope dans les petites annonces, mais à partir du 16 novembre 35, dans le même journal, il y a un deuxième horoscope qui arrive, et pendant des années, donc jusqu'en 37, il va y avoir deux horoscopes dans le même journal. Donc ça aussi, c'est une nouveauté, c'est surprenant, c'est l'horreur astrologique, qui lui aussi donne des prédictions généralistes, hein, toujours. Et puis, à 8h45, début calme, sous un climat social, à 17h, la pensée du home est vive et dominante. Ah, je ne sais pas ce que c'est, le home. Ben voilà, c'est des choses bateaux. Et donc, elle s'appelle Vinal, c'est une femme. Et donc, elle va publier son horoscope de novembre 35 à novembre 36, pour l'horaire astrologique. Et donc, moi, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle vient mettre un horoscope ici alors qu'il y a déjà celui du fakir. Est-ce qu'il n'y a pas de lien, ou est-ce que vraiment c'est parce que, pour l'astrologue, voir quelque chose comme ça, ça l'a peut-être dérangé, elle a voulu proposer autre chose. Donc, on a un autre format qui est un peu plus technique, mais il n'y a toujours pas les signes astrologiques. Et un an après, en fait, elle change. La rubrique va changer. Toc. Non, pas toc. Comment dire ? Donc on a vraiment la différence entre un horoscope, là par contre, qui est vraiment une rubrique manifestement pour le journal, c'est dans la rubrique loisirs, et puis les annonces du Fakir, qui lui est donc un format publicitaire. Il me manque une image, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas là. Bon. Alors on peut noter, après je l'ai trouvé, que dans le journal de la femme dont je vous ai déjà parlé, il y a une rubrique horoscopique hein, depuis 1932, mais il y a un autre astrologue qui va mettre aussi un horoscope dans les réclames de la revue. Donc l'horoscope comme une petite annonce pour se faire de la pub, ça existe déjà. D'ailleurs la concurrence, hein, c'est le meilleur moteur pour qu'il y ait de nouveaux formats. Et bien voilà l'image que j'attendais. Donc en fait, un an après, elle change de format, ça va être l'astrologue qui parle. C'est à peu près la même chose, hein, toujours. Et celui-là donc, va durer jusqu'en septembre 39, encore une fois, avec le début de la guerre. Vraiment, la première semaine de 39, de septembre 39, la plupart des horoscopes vont sauter. Donc, quand on fait des recherches de sources comme j'ai fait, c'est pas évident. C'est pas évident pour plein de raisons, donc vous venez d'en voir une ou deux. En fait, donc en résumé, ben voilà, ça commence en 32 dans la presse féminine, en 34 à la radio le Fakir, en 35 la presse populaire, après il y aura Marie-Claire. Ce qui est difficile, c'est qu'un astrologue peut collaborer avec plusieurs journaux, sous des pseudonymes différents. Donc il faut déjà s'y retrouver. Sur des supports différents, à la radio, au journal, puis en Angleterre, on a vu qu'il y avait d'autres supports. L'horoscope, ça peut être une rubrique dans une autre, consacrée à l'astrologie ou à autre chose. À chaque fois qu'il y a des grandes rubriques, on retrouve un florilège d'arguments d'autorité avec des grands savants érudits qui revendiquent une tradition, qui sont des initiés, qui sont vraiment à l'avance par rapport à la science, ou alors qui sont vraiment... qui accompagne les nouveautés de la science. En même temps, c'est une mode. Enfin bon, c'est vraiment un charabia. C'est un peu toujours le même. Ensuite, l'horoscope peut changer de nom. Hein. C'est pas le seul. Il y en a d'autres qui vont changer de nom comme ça. Certains vont durer des années. D'autres vont durer deux semaines. J'en ai même trouvé un à un moment qui a annoncé à partir de la semaine prochaine l'horoscope de machin. Et puis, il n'y aura jamais d'horoscope. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que le gars est mort entre-temps? Est-ce qu'ils ont décidé de ne pas publier? Est-ce qu'il y a eu des protestations, effectivement, qui ont empêché qu'il soit publié? Enfin, c'est pas évident. Et le pire, c'est que les horoscopes s'appellent rarement l'horoscope. Alors moi, je me demandais pourquoi les sociologues avaient trouvé si peu d'horoscopes quand ils nous disaient, ben voilà, les horoscopes des années 30. Mais en fait, voilà, je vous ai fait je vous ai donné quelques exemples. Vous pouvez trouver, donc c'est toujours des prédictions astrologiques, hein, soit pour la journée, soit pour la semaine, soit pour le mois. Ça peut s'appeler les mystères de la destinée, votre destin au jour le jour, les influences quotidiennes, les éphémérides de la chance, les chances du jour, le bonheur du jour, etc., le guide astral, le guide astrologique, on a l'horoscope quotidien, on a l'horoscope d'aujourd'hui. J'ai bien aimé, il y en a un moment qui fait l'horoscope de demain. En fait, il faisait l'horoscope d'aujourd'hui, mais il a expliqué qu'il y avait des lecteurs qui lui disaient, écoutez, c'est compliqué, on a l'information au dernier moment, on aimerait bien pouvoir se préparer. Et donc, bah, il va faire l'horoscope de demain. Et voilà, c'est véridique, hein, moi je l'ai lu, c'est assez extraordinaire. On a l'horaire astrologique aussi, puis le calendrier astrologique, la minute astrologique, la semaine astrologique, ce que sera le mois pour les personnes nées. Alors voilà, ça dépend. Et puis l'astrologue vous parle, l'astrologue de Radio Normandie, les causeries du Fakir, purement. Et celui que je préfère, c'est Allô, les astres vous parlent. Il y a vraiment de tout. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment... je vous ai mis l'horoscope quotidien, et un jour, ça devait être un jour férié, ils n'avaient pas pu faire l'horoscope de la veille, donc ils ont mis l'horoscope du jour précédent. Au cas où vous ayez raté quelque chose, c'est excellent. Donc, moi, je me suis amusé, hein, parce qu'il y a vraiment, vraiment plein de choses. Alors, ce qu'il y a de marrant aussi, si vous regardez les signatures, à droite, c'est C. Kernays, et à gauche, c'est She Kernays. En fait, c'est un couple. Il y a monsieur et madame. Donc des fois c'est lui, des fois c'est elle qui fait la rubrique. Ça, c'en est une autre. La semaine astrologique, c'est un peu la même idée. Elle commence par faire les prédictions pour la semaine d'avant. Non, c'est les événements de la semaine d'avant. Si vous voulez comparer, en fait, avec son horoscope qu'elle avait donné. Comme ça, vous pouvez comparer. Et après, elle fait l'avenir pour la semaine d'après. Mais en fait, bon là, je vous ai mis juste les prédictions, mais donc on est en 37, son ton est très très agressif, hein. C'est quelqu'un qui en a marre des sceptiques, quoi. Enfin, l'astrologie, c'est bon, c'est prouvé, ça marche, c'est longtemps que ça existe, et son truc, ça va durer deux semaines. Manifestement, ça passe pas, et clac, ça s'arrête, donc c'est pas la bonne chose. Soit ça marchait pas, soit elle était trop agressive, je ne sais pas. En résumé, de tous les horoscopes moi, que j'ai trouvés dans les années 30, réellement, Marie-Louise Sondal, c'est l'exception. Avec ses signes astrologiques, il n'y a qu'elle. Il n'y a qu'elle qui fait ça. Et donc, quand les sociologues nous le présentent comme le format idéal qui permet de parler à chacun, etc., d'avoir ses prédictions personnalisées, bah, en tout cas, bon, elle, ça apparaît juste avant la guerre, mais personne d'autre l'a fait à côté, manifestement. Et donc, maintenant, je vais vous parler du courrier des lectrices. Rebondissement. Au détour d'une source, donc moi dans mes recherches, je tombe sur un petit article en janvier 34, et j'ai pris conscience de mon biais de confirmation. Donc moi je vous assure, dans les années 30, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres horoscopes de presse, et il n'y en avait pas avant, jusqu'à ce que je tombe là-dessus. Là, on est dans la revue La Femme de France, et on nous dit qu'il y a le professeur Stello qui arrive, et ça commence par... Après une collaboration assidue de près de 20 années, Enigma, aspirant à une retraite bien méritée, cesse ses consultations d'astrologie et de graphologie, etc. On est en 34, et là je viens de lire que 20 ans de bons et loyaux services pour un astrologue. Et là je me dis, mince, waouh, là il y a un truc, quelle heure est-il ?
Moi,
25.
Et 45 minutes, petit pardon.
Ouais.
Juste pour que tu gères le temps.
Ouais, très bien, très bien. Merci bien, merci bien.
Attention, ils sont tenus, mais bon.
Voilà, oui, oui. Et là, je continue. Et là, je me dis, mince, ça remonte à 1914, donc ça veut dire qu'il y aurait des horoscopes avant, en fait, il y a autre chose. Allons voir, cherchons, je ne sais pas. Et en fait, je me rends compte qu'Enigma, c'est un astrologue, donc, qui a publié dans plusieurs revues la féminine. Et comme il a fait ça pendant des années sur plusieurs revues, alors des fois, il se trompe. Et on trouve des choses du style « Chère lectrice, la réponse d'Enigma à votre demande de consultation est parue par erreur dans la Femme de France du 3 janvier. Mais maintenant, donc, là, voilà, il la met dans la bonne. » Donc le pauvre, il a un peu du mal à gérer, des fois. Et en fait, en allant chercher plus loin, bah, finalement, je suis allé encore plus loin. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver les premières rubriques, enfin c'est celle moi que j'ai trouvée, en 1889. Alors là, on fait un bond. On passe carrément au 19e siècle. Je m'y attendais pas. On retrouve des noms... Alors, on connaît, quand on s'intéresse un peu à l'histoire de l'astrologie, on des noms comme Papus, Elistar, des gens comme ça, mais c'est des noms qu'on entend quoi, quand les astrologues parlent des anciens temps, enfin, du début du XXe. Et donc on trouve vraiment des rubriques dans des journaux, donc là, de la presse populaire déjà. Et à cette période, on est au temps de l'occultisme. Alors l'occultisme, c'est un mot qu'on entend souvent. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps ce que c'était finalement, parce que pour moi, l'occultisme, c'était l'ensemble de ces trucs... un peu obscurantiste, etc. Et en fait, il semble que c'est un mouvement presque philosophique qui a existé au tournant du XXe siècle. Et l'idée, c'était qu'au moment de la science triomphante, eh ben, on avait enfin les moyens d'aller prouver les sciences antiques. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans l'astrologie, la graphologie, la numérologie, machin, se sont dit, mais ça y est, maintenant, on peut faire des statistiques et on va pouvoir... fonder ces sciences-là, éventuellement faire le tri et garder séparer le bon grain de l'ivraie, etc. Et donc, on sait qu'en astrologie, hein, y en a qui ont essayé de faire ça. Et en fait, ben, ces gens, ils viennent dans les rubriques, ils expliquent que ben, ça y est, ils vont travailler sérieusement, que évidemment, hein, l'astrologie et tout ça, ce sont des disciplines sérieuses, prouvées, tralala. Et que, mais en fait, à ce moment-là, l'astrologie est perdue au milieu des autres disciplines. Souvent, on a des gens qui ne sont pas spécialisés en astrologie, mais qui font d'autres choses. Et en fait, leur rubrique, c'est original, ça va consister en ce qu'ils appellent eux-mêmes des consultations abrégées. Alors, par exemple, moi, je crois que c'est l'une des premières rubriques que j'ai trouvées en 1889. Vous avez un astrologue qui s'est appelé Cornelius, et qui écrit, qui répond à quelqu'un, en fait, et qui lui dit « Les présages sont justes, dites-vous, merci de vos remerciements, mais le Gil Blas, c'est le nom de la revue, enfin du journal, ne peut aller plus loin que ses pronostics, sinon il faudrait ériger des horoscopes, alors là il veut dire des cartes générales du ciel, pour donner l'avenir avec quelques détails. Or, chaque opération demande plusieurs jours de travail. » C'est l'image que je vous montrais au tout début, en vous disant, si on prend tous les paramètres des cartes astrologiques, c'est compliqué, les horoscopes de presse, c'est la même chose, mais on enlève 90% des paramètres, ce qui n'est pas légitime d'un point de vue astrologique. Et là, en gros, il est en train de dire, mais je ne peux pas vous faire des prédictions générales, puisque ce n'est pas possible. C'est trop, trop complexe. Et en 1906, déjà, donc en gros, on a une chronique astrologique et graphologique, hein, c'est tout mélangé. C'est le professeur Donato. Et là, donc, lui nous fait justement ce qu'ils appellent une consultation abrégée. Si je grossis, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, il y a Henri de Lyon à qui il répond. Alors, premièrement, Mercure vous influence. Vous avez grande chance de succès dans votre nouveau commerce. Évitez cette union qui serait funeste pour vous, etc. Et donc, ça, c'est une prédiction qui est faite, mais à une personne. Alors qu'en fait, ensuite, on pourra simplement enlever le nom et puis mettre ça pour le signe du bélier, par exemple. Mercure vous influence, vous avez une grande chance de succès dans votre nouveau commerce, évitez cette union, etc. Mais pour l'instant, on commence vraiment avec des choses personnalisées. L'astrologue, c'est quelqu'un qui travaille avec des gens en face de lui, normalement. Il ne travaille pas comme ça à distance. Enfin, il peut travailler à distance, mais il travaille sur des données qui, pour lui, sont complexes. Et donc, ces rubriques ont une évolution qui est assez commune. Enfin, moi, je l'ai retrouvée dans plusieurs rubriques, parce que j'ai trouvé plusieurs rubriques. En fait, au début, les gens viennent en disant, en faisant la promotion donc d'un vrai prosélytisme occulte. Donc, il y a de la graphologie, de la numérologie, de la chirologie. On a des articles avec des mains et on vous dit selon telle ligne, vous pouvez penser telle chose. Il y a beaucoup de graphologie, c'est-à-dire il y a une rubrique sur la lettre J. Alors, si vous l'écrivez de telle façon ou telle autre, ça veut dire quelque chose sur votre personnalité. Puis vraiment, ils sont à fond là-dedans. C'est vraiment marrant à lire. Et ça interroge les gens, donc les lecteurs envoient des questions. Alors ils se disent, on va répondre aux questions des lecteurs, ça peut faire une rubrique. Donc ils le font, mais le problème, c'est que ça enfle très vite et le courrier devient trop abondant, ce qui fait qu'ils sont toujours dépassés, en fait. Donc on sent qu'il y a une demande du public. Et en fait, comme il y a trop de réponses, ils ne peuvent pas publier toutes les réponses. Ils prennent du retard, ils se trompent, comme avait fait Enigma tout à l'heure, et puis il y en a même ça tombe dans le burn-out, quoi. J'arrive plus, j'ai pris 2 semaines de retard, et puis plus loin il écrit, j'ai 1 mois de retard, et ainsi de suite, quoi. Et en fait, donc, on arrive à ce genre de choses. Donc malheureusement, l'espace nous manque pour consacrer une place à ce courrier dans nos colonnes, etc. Et donc, les courriers des lecteurs s'étendent sur parfois plusieurs dizaines d'années. Et là, c'est vraiment dans la presse féminine, par contre. Les échanges, les consultations abrégées, que ça va se développer donc, entre 1910 et 1935 à peu près. Mais il n'y a jamais, j'ai jamais trouvé des prédictions collectives comme les horoscopes de presse dans les années 30 que je vous ai montrés. Donc c'est étonnant que ça n'apparaisse pas avant. Et donc, il va y en avoir jusqu'en 37, alors que les horoscopes commencent dans les années en 32. Donc les deux vont coexister jusqu'à ce moment-là. Et maintenant, on va parler des escroqueries à grande échelle, rebondissement, pour changer. Vous verrez que j'ai fait beaucoup d'efforts pour le choix de mes titres pour la suite. Alors, comme j'étais dans les années 1900-1910, souvent je tombais, parce qu'en fait je faisais des recherches par mots-clés sur Gallica, avec le mot horoscope, et je tombais souvent sur des annonces d'un gars qui s'appelle Roxroy, puis il y en avait d'autres aussi, et il commence lui en juillet 1910, vous allez voir les annonces qu'il publie, et il se présente comme astrologue, et lui ça va durer jusqu'en 36. Et pour vous donner une idée des formats, et surtout des dimensions que ça prend, je me suis rendu compte qu'il publiait ses annonces dans tous les journaux francophones possibles. Donc, presse féminine ou pas, dans la presse populaire aussi, en Algérie, en Belgique, au Canada, j'en ai trouvé à Madagascar, enfin bon, il y a de partout. Et ces annonces, ça ne va pas chercher très loin, c'est un format qui est fixe, qui ne bouge pas, et le point commun de tout, c'est qu'il propose un horoscope gratuit. Alors, il faudra qu'on se demande ce que c'est que cet horoscope. Donc je suis désolé pour le rectangle bleu, il arrive trop tôt. Donc en 1910, par exemple, la première annonce que je trouve, voilà, elle ressemble à ça. Je vais vous dire après un petit peu ce qu'il y a dedans. Cet homme peut-il lire votre vie? On a un dessin, et donc il promet le bonheur aux personnes qui vont lui répondre. C'est le plus grand astrologue du monde, évidemment, etc. etc. En 1912, vous voyez que l'annonce n'a pas trop bougé. C'est vraiment la même, hein, il va continuer comme ça, il va faire son commerce. Et puis en 36, c'est encore quasiment la même. Elle a toujours pas bougé, j'en ai pas trouvé d'autres. Enfin, j'en ai trouvé des centaines, mais c'est toutes les mêmes. Et donc, pour vous donner un exemple du contenu, alors la vérité dans votre horoscope, on est dans les années 30, le mot horoscope a pris de l'importance. Donc, il insiste sur le fait qu'il veut dire gratuitement des choses aux personnes qui vont lui répondre. Il a des renseignements confidentiels à leur donner. C'est pour ça qu'il fait des publicités de partout dans la presse. Vous connaîtrez votre avenir, vos amis, vos ennemis, le succès et le bonheur, donc qui se répète un peu plus loin. C'est encore gratuit. Et puis, il faut bien écrire, quand on lui écrit, il faut bien écrire à la main. Il ne faut pas envoyer un courrier tapé ou quelque chose comme ça. Donc nous, en tant que zététiciens, ça nous fait vraiment penser aux expériences classiques sur l'effet Barnum, où en fait, les gens vraiment ont tendance à se reconnaître dans des phrases toutes faites qui ne leur sont pas destinées. Et ceci d'autant plus qu'elles accordent de l'autorité aux personnes qui le font. et encore plus s'il y a quelque chose vraiment de personnel pour elles. Si elles écrivent, il y a leur écriture par exemple. Si on leur demande de donner un objet personnel, elles ont l'impression que ça va être plus pour elles qu'on écrit ces choses-là, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, remarque, le professeur Roxroy est très estimé par ses nombreux clients. Il est l'astrologue le plus ancien et le mieux connu du continent. C'est souvent comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que ces gens-là, ils ont besoin d'annonces, quoi. Et donc, lui, il a un certain succès quand même, puisqu'en 1915, il se paye le luxe quand même d'annoncer, donc je l'ai en rouge, le professeur Roxroy, astrologue américain très connu, dont les bureaux sont maintenant en Hollande. En gros, il a déménagé, il le précise. Je ne sais pas pourquoi, il dit ça aux gens, pour ceux qui ont l'habitude de lui écrire, pour pas qu'ils écrivent à l'ancienne adresse, probablement. Donc voilà, on a un gars qui fait sa pub comme ça, qui propose des horoscopes gratuits, il fait ça, donc c'est sa vie, il fait ça pendant au moins 25 ans, et il n'est pas le seul. Et donc, dans les années 30, en fait, cette pratique va se démultiplier. Et là, on se rend compte qu'il y a plein d'annonces qui paraissent, qui sont presque identiques. Et là, ce sont des professeurs. Alors, c'est les mots qu'employaient les astrologues que j'ai sourcés au tout début. Des professeurs publient leurs annonces. Exemple, un gars qui s'appelle Elroy, dont on reparlera à la fin. Là, on a l'impression que c'est carrément le même gars, quoi. C'est le même format, c'est toujours pareil. Et puis, mais il y a aussi l'astrologue Spirit. Mais il y a aussi Gemaro. Puis vous voyez, les annonces ne se ressemblent pas du tout, hein. Il y a celui-là aussi, là, qui est Vodja. Le facteur birman, évidemment, qui s'y met. On a, lui, c'est le professeur Ox. On a celui-ci, je ne sais pas, ça doit être George McKay, manifestement. Alors lui, c'est le fameux astrologue de Bombay. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'argument de l'exotisme, on est en plein dedans, là. C'est vraiment, ils le font, ils viennent tous de l'étranger. On a celui-là, le professeur Rena, le professeur Sirma. On a le mage Sarkhan aussi, on a le professeur Zazra, je crois. Et voilà, et donc on a ces annonces qui se multiplient, qui sont de partout. Et là, je ne l'ai pas entouré systématiquement, mais en général, donc, ils se présentent comme astrologues et ils proposent donc toujours les astrologues, les horoscopes gratuits. Il y a des gens qui commencent à protester, dans les revues, on voit des protestations. Ils ont bien compris que ce sont des escrocs. Et en fait, quand on suit ces annonces, c'est marrant parce que soit elles disparaissent rapidement, soit elles grossissent. En fait, c'est comme ça qu'on voit si le commerce marche. Si ça marche pas, ben, le gars, il arrête. Alors, s'il commence à avoir des réponses, il commence à avoir de l'argent, donc il publie des annonces plus grosses, ce qui lui amène plus de clients. Et finalement, ça va donner des choses assez étonnantes. Encore ce rectangle bleu, pardon. Les annonces, là, je vous ai pris dans les dernières, elles commencent vraiment à se sophistiquer. Ça va loin, il y a des petites BD, je vais vous en montrer plus loin. Et puis, là, carrément, ils ont mis en scène, carrément avec des photos. Il propose des horoscopes gratuits toujours en bas. Puis on verra qu'il propose aussi de gagner à la loterie nationale. Donc ça, c'est assez étonnant. On va en reparler. Il y a vraiment un business qui s'organise. Au point qu'il y en a tellement de partout que les journaux commencent à faire leur budget en fonction des annonces que les escrocs vont publier dans leur page. Et il commence à y avoir une interaction, ce qui fait qu'ils les mettent en avant. Enfin bon, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et en fait, les escrocs courtisent bien sûr les médias, puis on les retrouve à la radio, donc ils font des horoscopes, ils sont dans les journaux, on les invite des fois eux-mêmes à produire des prédictions annuelles. Et en fait, la question moi que je me suis posée petit à petit, c'est dans quelle mesure est-ce que les horoscopeurs, donc entre guillemets les vrais astrologues, ont profité de ces escrocs. Parce qu'eux, ils sont super actifs, ils vont partout et ils proposent des horoscopes de partout, alors qu'en fait, ils font pas forcément de l'astrologie, quoi. Et donc, les histoires de concours de circonstances, moi que je cherchais depuis mon travail sur l'Angleterre, je le retrouve là. Et je me suis posé aussi la question du rapport à la réalité, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les escrocs qui deviennent célèbres, qui sont invités de partout, qui ont vraiment compris la logique du commerce, la logique de la médiatisation naissante, alors que les astrologues, eux, n'ont pas l'air d'être du tout dans ce trip, quoi. Eux, ils font leur consultation chez eux, ils font leurs petits horoscopes, et bon, je vais passer là-dessus. Et donc, je me demande dans quelle mesure l'astrologie a profité de ça. Et maintenant, je vais vous parler de la loterie nationale, un rebondissement, encore, et c'est comme ça tout le long en fait, il n'y a que des rebondissements. Donc je continue mon enquête, et à un moment, je tombe sur une nouvelle annonce du fakir birman, et là, cette fois-ci, c'est complètement différent. Alors vous qui avez encore perdu, profitez enfin de ce bon gratuit de détermination de chance aux loteries et d'horoscopes. Un total de plus de 5 500 000 francs a été gagné à la loterie nationale par les clients du fakir birman. Alors là, il change. Et il y a cette loterie qui arrive, la loterie nationale. Et donc, je me suis dit, j'ai trouvé plusieurs annonces, moi, comme ça. Donc, c'est l'annonce, je l'ai trouvée sur cette page de l'intransigeant. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est au milieu, hein. Elle partage la page en deux. Et ce que je vous ai dit, moi, sur l'histoire du rapport des astrologues à la réalité, juste en dessous, en rouge, vous avez l'horoscope de Madame Ginal, l'astrologue vous parle, qui est toujours là, qui n'a pas bougé, qui est tout petit, qui stagne, en fait, et même qui se retrouve maintenant dans les petites annonces, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et donc, le Fakir Birman, lui, publie des pubs de partout pour vanter ses qualités, pour choisir les bons billets de loterie, en fait. Et il n'est pas le seul, en fait, hein, il y en a un autre, Sir Eric Thomas, etc. Et donc, je me suis intéressé à cette histoire de loterie nationale. En fait, depuis les années 20, il y a un projet donc, par le gouvernement de monter une loterie nationale pour financer les pensions des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Pour l'instant, rien à voir. Ça traîne jusqu'en 33. En fait, ils doivent décider ça en 32. Le temps que ça se mette en place, c'est pour fin 33. Et donc, on imagine une loterie qui serait annuelle et qui permettrait aux Français de gagner quelques gros lots, mais surtout de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour financer tout ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait attendre, il va y avoir un engouement incroyable. Donc elle va devenir mensuelle avant de commencer. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier tirage qui va amener un gros succès, c'est qu'il va y avoir tellement de succès avant le premier tirage qu'on va décider qu'il y en aura plus, parce qu'il n'y a pas assez de billets déjà, ils sont trop vendus. 10 millions de billets, sur les 10 millions de billets, il y a 100 000 gagnants, même de petits lots, mais il y a 100 000 gagnants, qui sont vendus bien avant le premier tirage. Le premier tirage était prévu en fin d'année, il a avancé au 8 novembre. Et très rapidement, on voit qu'il y a un tel engouement qu'il commence à y avoir un trafic de billets de loterie. Les gens veulent des billets, il n'y en a pas assez. Il y en a même qui vont vouloir en acheter depuis l'étranger. La loterie nationale en France va avoir un tel succès qu'il va y avoir des loteries qui vont être créées maintenant, qui vont être créées dans les autres pays. Il y a beaucoup d'autres, le loto par exemple, qui est la loterie nationale, c'est l'ancêtre. Les autres lotos dans d'autres pays sont nés après celle-ci. En fait, il y a même des loteries qui sont mises en place pour gagner des billets de loterie. De la loterie nationale.
On appelle ça un produit dérivé.
Voilà. Prix du concours, 5 carnets de billets de loterie, de la loterie nationale, etc. Les publicitaires s'en emparent. Parce que je vous dis, c'est vraiment tout le monde en parle, dans toutes les classes de la société. À la loterie nationale, vous gagnerez peut-être. À Jouvencia, vous perdrez sûrement votre embonpoint. Et après, on commence à jouer sur la loterie nationale. Mais gagner 5 millions de francs à la loterie nationale sans même prendre un billet, bon gratuit d'un billet à la loterie nationale. Si vous achetez c'est une horloge, plutôt d'avoir 10% de remise, on vous offre un billet de loterie. Et en fait, tout le monde va en parler, mais la loterie va être, comme c'est l'engouement, on décide de diffuser en direct le tirage de la loterie nationale, le premier, à la radio, pour que tout le monde ait les résultats tout de suite. Il y a les vendeurs de radio qui disent « Mais louez un poste pour écouter les résultats de la loterie nationale en direct. » Il y en a d'autres après qui vont conseiller d'acheter un poste, et ainsi de suite. Quoi. Et tout le monde en parle tellement que commencent à fleurir certains articles. Et voilà, et moi quand je fais ma recherche, je tombe là-dessus. Une conséquence inattendue de la loterie dont le succès s'affirme, les chiromanciennes, cartomanciennes et astrologues sont vivement sollicités. Nous avons même pu voir ici un écriteau accroché sur une baraque de voyantes. On ne dit rien sur la loterie. Et on commence à voir des articles comme ça. Chez la pythonisse, on disait à cette époque, mon billet gagnera-t-il le gros lot? Les antichambres des cartomanciennes connaissent depuis quelques jours une extraordinaire affluence. Donc là, on est quelques semaines avant le premier tirage. Et elle raconte, mais je suis contrainte de fermer ma porte tous les soirs à 7h et de renvoyer toutes les personnes qui attendent dans mon salon. Sans cela, je travaillerai toute la nuit. Et en dessous, elle dit qu'on ne peut pas trouver les numéros, c'est pas possible. Par contre, on peut vous dire quelle sera votre période de chance pour acheter un billet, etc. Et donc, il y a plein de questions, il y a au moins 3 questions qui peuvent être posées au devant. La première, c'est est-ce que je vais gagner, hein ? Parce qu'on peut avoir un billet et dire est-ce que c'est un bon billet ou pas ? L'autre, ça va être mon billet sera-t-il gagnant ? Sinon, on fait cela, sinon j'en achète un autre. Ou alors, quel billet est-ce qu'il faut que j'achète ? Mais ça, c'est pas évident parce que tous les billets sont vendus, ça amène à plein de conséquences, c'est trop marrant. Mais pour nous, la loterie nationale provoque un afflux chez les devins. Et ça révèle une demande. Et donc, avant même le premier tirage, les escrocs vont promettre les bons numéros, ils vont se jeter là-dessus. Ils vont voir tout de suite leur intérêt là-dessus. Dont le fakir birman, bien entendu. Et donc, on a des gens qui vont publier des petites annonces, chance aux loteries selon la date, l'heure de naissance, etc. On va mêler l'astrologie à ça. Quand et comment acheter son billet par le fakir birman. Et il commence à donner des conférences à 20h30, le fakir birman sur loterie et astrologie, comment peut-on gagner. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que les escrocs vont commencer à présenter leurs gagnants. Donc ils disent qu'ils peuvent faire gagner, mais en plus c'est le cas. Un lot de 1 million est gagné par un de mes clients. Donc ils donnent le nom, l'adresse, hein, ça peut se vérifier. Et après ils continuent, voilà tous les gagnants, les derniers gagnants du dernier tirage. Et un joli gain, une vie nouvelle. Donc il se fait photographier avec des gens à qui il a permis de gagner, semble-t-il. Et tous sont pareils. Il y en a même un, là, vous voyez, il donne la liste des gagnants, leurs adresses, et il dit « Oh, sceptique, voici des preuves. » Là, il s'adresse à nous. Qu'est-ce que vous en pensez, alors? Est-ce que ce sont des escrocs ou est-ce que vraiment ils ont les moyens? J'ai presque terminé. En fait, ce qu'il y a, c'est comme ils ont, on va avoir des dizaines de milliers ou même plus de clients, ils vont conseiller des milliers de personnes. Donc, sur le nombre total de milliers et de milliers de candidats, quand ils leur disent « Vous devriez jouer un billet qui se termine par un 7 », voilà, c'est des conseils comme ça hein, qu'ils leur donnent. Ou alors, il faut acheter votre billet un mardi. Donc, c'est, ils ne leur disent pas, en fait, comment gagner. C'est juste que dans le lot, ben, il y en a déjà au moins un dixième qui va gagner avec les bons chiffres. Et puis après, ben, de temps en temps, ça tombe sur des gros trucs, quoi. Donc, leur présence dans les journaux va être de plus en plus importante. Ils vont continuer d'envoyer des horoscopes gratuits de plus en plus. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces horoscopes? Eh bien, il y a une série de procès, d'abord, qui va se produire en 38-39. Et c'est encore un rebondissement. Alors, je vais aller très vite. En fait, ils sont dénoncés au procureur de la République, parce qu'ils ne les avaient peut-être pas vus, je ne sais pas. Et donc, ces deux séries de procès, à un an d'intervalle, vont donner lieu à plein d'articles assez savoureux. Faux fakirs, mais vrais escrocs. Cinq fakirs et une fakiresse en quête de leur destin. L'un d'eux donnait des consultations avec une fausse barbe. Tous admettent des recettes énormes et se plaignent des frais généraux. Je ne me rendais pas compte le nombre d'enveloppes qu'il faut envoyer, les teintes, ça coûte cher, quoi. Voilà, ils sont à leur place. Et vraiment, on les associe aux horoscopes. C'est des vendeurs d'horoscopes qui sont en correctionnel. Donc on a plein de détails quand on lit les comptes rendus. Donc ils étaient au moins 80 à être devant le tribunal sur 2 ans. La plupart n'ont jamais pratiqué l'astrologie. Ils ont un budget de publicité qui est énorme, mais qui est proportionnel à leur chiffre d'affaires. Le fakir birman donc, est passé en 32 de 72 francs par semaine, en 35, 37, je ne sais plus, à 96 000 francs par semaine. En fait, donc, il recevait des dizaines de sacs postaux par jour, il avait 67 secrétaires, et on pense qu'il gérait 5000 lettres reçues ou envoyées par jour. Alors, l'activité des gens qu'il emploie, c'est le fait de renvoyer des imprimés. Et sur ces imprimés, il y a en fait un signe du zodiaque qui est traité, c'est le portrait d'un signe.
Il crée des emplois quand même.
Oui, quelque part. Et donc, il a, disons, des dizaines d'employés qui passent leur temps à mettre des feuilles sous enveloppe, en fait, et à les envoyer, ça ne va pas plus loin. Et donc, ça veut dire qu'il y a des millions de Français, parce qu'ils ont vraiment fait ça à grande échelle, ils sont plusieurs, qui ont reçu des portraits de leur signe astrologique par ces escrocs. Et il y a ce qu'on appelle, ce que les Morin appelaient dans l'étude sociologique, l'alphabétisation zodiacale. Comment apprend-on qu'on a un signe du zodiaque et comment est-ce qu'on retient qu'on l'a? Aujourd'hui, on le connaît normalement à peu près tous, mais ce n'est pas du tout le cas à l'époque. Eh bien, on voit ça dans les. On met ça dans le succès des horoscopes de presse. Là, il y a des millions de Français qui reçoivent ces portraits. Et on peut se demander dans quelle mesure ben, ça n'a pas commencé comme ça, en fait. Alors, je ne vais pas pouvoir tout lire, mais là, les gens reçoivent en fait un portrait de leur signe astrologique, et donc avec que des énoncés positifs et qui les incitent à répondre et à envoyer de l'argent pour trouver d'autres choses. Si vous ne répondez pas, ils vous réécrivent et puis vous proposent l'horoscope, le texte suivant à moitié prix, au tiers, etc. Si vous ne répondez toujours pas, ils deviennent menaçants. Et attention, si vous ne répondez pas, vous allez être ruiné, etc. Et en fait, l'horoscope, ce qu'ils appellent l'horoscope, eux, c'est le portrait du signe astrologique. C'est ce qu'on appelle une technique d'amorçage, c'est pour vous accrocher. Si vous vous reconnaissez dans le texte qu'ils vous envoient, ben, vous êtes tenté d'en savoir plus. Et en fait, c'est vraiment un business. Et ils vont vendre beaucoup de produits dérivés, comme on pourrait dire, c'est-à-dire des portraits plus fouillés, des talismans, de la poudre magique, des parfums, enfin tout ça. Et donc, il y en a qui vont même jusqu'à proposer un portrait du signe astrologique, ils en ont 3 selon si c'est un homme, une femme ou une jeune fille, pour que ça corresponde bien. Et donc, là par exemple, moi je pense que j'ai trouvé une réponse possible au paradoxe que je vous donnais au début. C'est-à-dire qu'il y avait des portraits contre l'usage des signes astrologiques, il y avait des protestations par des astrologues, et cette mode-là, elle commence bien avant les horoscopes. Donc en fait, ces protestations-là, c'était pas contre les horoscopes, je pense. Mais c'était plutôt contre les escrocs. Et je suis très embêté, donc je ne vais pas pouvoir faire tout ce que je pensais. En fait, au procès, on découvre des choses incroyables sur ce que faisaient les gens, ce qu'ils étaient, ce qu'ils n'étaient pas. Il y en a, c'est juste une ancienne commerciale, il n'existe, il n'y a pas de, de professeur en question. Il y en a un qui est assez cynique pour dire « Mon client n'a trompé personne, il n'a pas cherché à se faire passer pour un vieillard à barbe blanche, ni voulu faire croire qu'il était un devin, il se livre seulement au calcul de probabilité. » Ça va loin. Il y en a qui amènent des attestations de leurs clients, qui disent à quel point ils les ont aidés, qu'ils leur ont aidé à réussir dans la vie, etc. Il y a des généraux, des colonels, des avocats, etc. On apprend qu'il y a deux fakirs birmans. Rebondissement, enfin surprise en tout cas. Et en fait, il y a un Français qui gère ça derrière, et puis un Arménien qui a la tête, du fakir, et c'est lui qu'on voit en fait sur les photos, mais c'est pas vraiment le fakir, quoi. Ah bon, on est parmi les escrocs qui vont être condamnés à rien du tout en amende, ça doit être la peine maximale, mais par contre, ils sont interdits d'activité. Et donc, est-ce que tu me donnes 5 minutes ? C'est possible.
Vous savez qu'on arrive à respecter le temps, donc
question.
On va à 4h30 pour faire une pause, bon, vous pouvez continuer.
Ouais, mais je vais essayer de finir bien avant, hein, je me dépêche. Je me dépêche. Il se trouve que parmi ces escrocs, il y en a un qui s'appelle Elroy. Et en fait, comme ils disent, c'est une oreille qu'on aurait dit manger au mythe, le plus insignifiant d'aspect, l'un des mieux organisés, le plus prospère. Et il se trouve qu'Elroy, c'est encore un rebondissement, enfin, pour moi ça a été le dernier, parce qu'après j'ai arrêté. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a trop de choses. En fait, quand on suit lui, ses petites annonces, à lui, elles sont différentes. Au début, en fait, c'est celle que je vous ai montrée, elle est comme les autres. Mais en fait, alors moi, je passe là-dessus, enfin, c'est vraiment un escroc. Là, il va publier en première page de l'Écho d'Alger pour mettre la population en garde, etc. Enfin, lui, là, il n'a pas de limite. Mais il est très créatif. Donc il va passer au dessin. Vous voyez à gauche, la personne doute, elle n'est pas très bien, mais bon, elle va recevoir son horoscope gratuit, et après, ça y est, elle va mieux. Et puis là, on peut décliner. Hein. Au début, ben, le 1er juin, on repousse encore une fois quelqu'un avec qui on ne voudrait pas être. Et puis après, on rencontre la bonne personne, et puis après, ben, quelques mois après, on se marie. Et en fait, ça peut se décliner dans tous les domaines. Ces annonces sont de plus en plus grandes, donc ça marche. Et puis, comme toi, je ne me sentais plus la force de vivre. Et puis, après, tout est allé mieux. Et ça, c'est un mois avant la Saint-Valentin. Si vous voulez rencontrer l'homme de votre vie, n'oubliez pas de nous commander un horoscope. Et ainsi de suite, et ça continue. Et en fait, moi, je le suis, et parce qu'il propose des horoscopes, évidemment, de partout. Et à un moment, je vois qu'il se stabilise, et il n'en produit plus qu'une de temps en temps, et puis il réutilise la même. Et à un moment, tout à coup, clac, voilà sa nouvelle annonce. Et sa nouvelle annonce, c'est en fait le portrait d'un signe astrologique, carrément. C'est-à-dire ce que les autres font en douce, ce qu'ils envoient en réponse aux personnes qui leur envoient de l'argent, lui, il va le placarder carrément dans les journaux. Et là, par exemple, ça commence avec le signe du Gémeaux. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a le portrait typique de Madame Gémeaux. Est-ce qu'il y a des Gémeaux, là, dans la salle? Des Madame Gémeaux? Des Madame Gémeaux? Non! Il n'y a pas une... Bon, tant pis. Est-ce qu'il y a des Madame Taureaux? Non. Gémeaux Cancer, Madame Cancer.
Coccinelle.
On en a une. Donc, regarde, ouais, franchement, ça te ressemble, non? Je crois pas.
Coccinelle?
Non. Et en fait, chaque mois, il va changer son annonce. Et lui, en fait, on... Comment? Franchement, je me suis posé la question. Il y en a qui se ressemblent, mais non, je crois pas. Ouais. Je suis d'accord, j'ai l'impression, mais pas toujours. Alors, elle, c'est pas la même, par exemple. Mais je me suis aussi posé la question. Et donc, en fait, chaque mois, il va changer d'annonce, il va faire le portrait de tel signe. Donc, je pense qu'il réutilise ben, les choses qu'utilisent les autres. Donc là, réellement, on a des pages entières consacrées à ça, dans la presse, hein, la grande presse, de longs portraits mensuels, signe par signe. Il se trouve que Naylor, en Angleterre, dont j'ai déjà parlé, a commencé à faire la même chose quelques mois avant. Coïncidence ou pas, telle est la question. Et donc, moi je me dis, chouette, il y a 12 signes. Alors donc, on arrive à la fin, là c'est Madame Bélier, et puis là c'est Madame Taureau. Et alors, quelle est l'annonce suivante? Est-ce qu'il recommence avec les Béliers, et puis il va tourner toute l'année? Ou comme il est créatif, est-ce qu'il va faire quelque chose d'autre, quoi? Et donc là, je continue, et là, c'est la dernière surprise, c'est mon coup de théâtre personnel, c'est que son annonce suivante, c'est ça. Donc là, vous ne voyez rien, évidemment, et je vous laisse voir la longueur. Et en fait, quand on grossit, de quoi demain sera-t-il fait? Et là, en fait, on se rend compte qu'on a un horoscope signe par signe. Et clac, ça sort comme ça, de nulle part. Et moi, je tombe là-dessus, et il fait ça en 1937, c'est-à-dire 2 ans avant Marie-Louise Sondaz. Et je me dis, mince, alors déjà, bah, évidemment, je ne m'y attendais pas. Lui, c'est un vrai escroc. Hein. Quand vous regardez les annonces qu'il a fait avant, il n'y a pas de doute, hein, il ne fait pas ça pour le bien des gens. Et là, il nous balance ça, comme ça. Et encore une fois, on est en 1937, quelques mois après que Naylor, en Angleterre, l'ait fait aussi. Et là, c'est bizarre, parce que ça fait déjà 2 fois. Et donc, bon, c'est les horoscopes classiques. Hein. Et voilà, donc 2 ans avant Marie-Louise Sondaz, etc. Ce qui veut dire que jusqu'en 1939, il va en publier pendant 2 ans. Et donc, Marie-Louise Sondaz, elle, ne va pas s'en inspirer. Aucun astrologue ne va s'en inspirer. Alors que là, il est de partout dans la presse, quoi. Et donc, je ne sais pas pourquoi les autres astrologues n'ont pas suivi. À moins qu'ils aient associé eux-mêmes le signe astrologique aux escrocs, qu'ils n'aient pas voulu faire pareil. Ben voilà, on arrive dans de nouveaux questionnements. Et en fait, est-ce que le premier horoscope astrologique de presse, celui-là, donc, c'est une pure escroquerie? Et donc, si vous connaissez les vidéos d'hygiène mentale sur YouTube, on en avait fait une avec Christophe il y a 2-3 ans, et donc on parlait justement des horoscopes, et maintenant on a la preuve, on le savait déjà, mais il y a un jeune informaticien qui s'y est intéressé, on a la preuve qu'aujourd'hui on crée des horoscopes en tirant au hasard des textes qui ont déjà été publiés dans des horoscopes précédents. Donc d'une année à l'autre, on reprend les mêmes phrases, on mélange, on recrée de nouveaux trucs. Et je me suis dit, mince, mais alors, est-ce que lui le fait? Parce que si lui le fait, c'est officiel, quoi. C'est une escroquerie, s'il reprend juste des blocs comme ça. Et donc, là, j'ai pas eu le temps de retrouver les passages, mais je l'avais fait à l'époque, et oui, dans les premiers mois, il reprend des blocs, il les mélange, il change l'ordre, etc. Donc oui, pour moi, le premier horoscope là, que j'ai trouvé dans la presse, qui n'est pas écrit par un astrologue, mais par un escroc, c'est réellement la dernière technique d'escroquerie à l'époque, quoi, manifestement. Même si ça va être repris par les astrologues derrière, et donc c'est vraiment la surprise. Les astrologues ne savent pas trop comment répondre à ça. Dans les revues d'astrologie, il n'y a pas vraiment d'horoscope. Et donc, dans une revue, j'ai trouvé un horoscope signe par signe qui commence le mois d'après qu'Elreuil ait publié et commencé ses faux horoscopes dans la presse. Et donc, moi, je me demande s'il n'aura pas envoyé un truc, et puis eux n'ont peut-être pas voulu le publier, ou je ne sais pas quoi. Mais mine de rien, un mois après lui, il y en a un qui apparaît dans une revue astrologique. Et comme par hasard, donc on est vraiment on remarque des choses, hein, je ne peux pas dire que c'est la cause. Mais finalement, au moment où Marie-Louise Sondaz publie son premier horoscope signe par signe, c'est le moment où Elroy passe en procès. Donc, il y a des astrologues qui assistent à ces procès, hein, parce qu'ils veulent dénoncer ça. Et donc, est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle découvre en fait son travail? Est-ce qu'elle se dit, mince, il y a quelque chose à faire? Je ne sais pas. Mais c'est à ce moment-là qu'elle le fait. Et on peut même établir un lien entre l'Angleterre et la France. Parce que quand on reprend les comptes rendus d'audience, on se rend compte que c'est quelqu'un qui séjourne 2 mois en France par an. Donc, il n'est pas français. Et en fait, encore une coïncidence, on apprend qu'il est anglais, comme Naylor. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est à cause de ça que... Parce que je n'ai pas réussi à retrouver les textes de l'anglais, la Naylor, où je voudrais vraiment comparer ses portraits avec ceux qu'utilisait Elroy. Mais moi, je pense que là, il y a un lien et qui peut... Je pense que c'est un escroc qui a amené ça d'Angleterre et qui a mis ça en France. Et donc, je pense aussi que les astrologues ont vraiment sous-estimé l'activité des escrocs et leur organisation. Ils ont protesté un petit peu. Et quand ils protestaient, c'était compliqué pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas admettre que le signe astrologique seul... Ça ne marche pas. Parce que non, tout marche en astrologie. C'est pas possible que le signe ne marche pas. Donc il fallait qu'ils trouvent des raisons quoi, pour pas que ça marche. Et il n'y en a aucun qui pouvait rejeter en bloc ce que faisaient les escrocs. Donc c'est assez marrant de les voir essayer de bifurquer, de contourner le problème. En tout cas, moi, je pense que vraiment le succès des escrocs les a poussés à s'intéresser encore plus aux signes astrologiques. Et puis donc, il y a des millions de portraits de signes qui ont été envoyés aux Français. Pour terminer, pour synthétiser un petit peu, donc en gros, les premières rubriques astrologiques sont dans les catégories de loisirs. Ce sont des consultations abrégées. Moi, j'en ai retrouvé jusqu'en 1889. Au début du 20e, 1906, etc., au moins jusqu'en 37, en fait, on a un courrier des lecteurs où ce sont des astrologues qui répondent aux questions des gens. Les petites annonces des escrocs, c'est au moins depuis 1910. Dans les années 20, on ne sait pas trop, il ne se passe pas grand-chose dans la presse. Et dans les années 30, en 1932, donc, on a un premier horoscope généraliste dans le journal de la femme. Les horoscopes gratuits des escrocs sont toujours là à grande échelle et vont vraiment se répandre dans les années 30. La loterie nationale, à mon avis, a amplifié encore le phénomène et a montré vraiment que les Français étaient demandeurs. Et donc, les escrocs ont vraiment trouvé un filon qu'ils ont exploité. Elroy, qui est l'un de ces escrocs, en fait, publie son premier horoscope, si je puis dire, signe par signe, en 37. C'est réellement, pour moi, une technique d'escroquerie. Et je pense que c'est en lien avec ce qui se passe en Angleterre, quelques mois avant. La série de procès arrête tout ça, donne un coup d'arrêt. Et il ne reste plus que Sondaz, qui, elle, a commencé ses horoscopes signe par signe pendant 3 mois. Et donc, comme on n'a pas le temps, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais en fait, elle va reprendre ses horoscopes pendant la guerre. Moi, j'ai trouvé des horoscopes pendant la guerre, alors qu'on pensait qu'il n'y en avait pas. Et donc, elle va reprendre ses horoscopes, mais elle ne reprend pas le format signe par signe. Elle reprend les anciens horoscopes. Donc finalement, le format idéal, encore une fois, ce n'est pas à ce moment-là qu'il marche. Après la guerre, il va marcher. Et donc, finalement, alors pour répondre aux questions du début, comment est-il en France? Moi, je pense que les escrocs ont vraiment joué un grand, grand rôle là-dedans. Pourquoi pas avant les années 30? En fait, les escrocs ont commencé à utiliser les portraits selon les signes. Moi, je n'ai pas pu retrouver la date, mais au moins dans les années 30, probablement depuis 1910. Finalement, il y a peut-être une diffusion entre l'Angleterre et la France. Je ne peux rien dire pour les États-Unis. Techniquement, il ne devrait pas exister, effectivement. Mais pour les escrocs, on ne se pose pas les mêmes questions. C'est-à-dire, eux, ça ne les gêne pas de caricaturer le truc, de l'utiliser. Pardon ?
La plupart des escrocs n'étaient pas français, j'ai dit.
Ah, alors en fait, ils se font appeler professeur Sirna, mais vous savez, c'est comme le moine tibétain...
Il y en avait.
Mais vous savez, c'est comme le moine tibétain qui est originaire d'Auvergne. C'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis le professeur machin, puis pour le fakir birman, on prend un Arménien, et puis c'est lui qui joue le rôle. Hein. Donc si, il y avait des Français dans l'histoire, bien sûr. Hein. Les surprises que j'avais trouvées en Angleterre, vous imaginez bien que là, j'ai été comblé. Là, les concours de circonstances en France. Enfin, pour dire, moi, derrière ma question, c'était qu'ont fait les astrologues pour installer les horoscopes. Et je me rends compte, moi, je pense que les astrologues n'ont rien fait pour installer les horoscopes. Ils se sont installés d'eux-mêmes, indépendamment des astrologues. Les astrologues ont pris la suite, quoi, mais ils ne sont même pas responsables de ça. Donc, les protestations antidatées ne le sont plus. En fait, contre les escrocs, il y a des protestations bien avant la création des horoscopes, et ils utilisaient les signes astrologiques. En fait, Marie-Louise Sondaz crée son horoscope pour les brunes, les blondes et les rousses parce qu'elle est persuadée qu'il y a des liens entre le corps, l'esprit, les astres et que c'est un peu en discussion dans les années 30. Et en termes de mécanisme de propagation des croyances collectives, donc là, je n'ai pas de réponse à apporter à ça, mais en tout cas, l'importance des circonstances, de l'arbitraire, du hasard est omniprésent. Les biais cognitifs, ici, l'effet Barnum est de partout. Les gens reçoivent des portraits tout faits, ils se reconnaissent dedans alors que ce n'est pas pour eux. On a des sophismes en permanent, des recours aux arguments d'autorité, etc. Et les gens se font avoir par ce biais-là, quoi. En fait, on est plus dans l'histoire de la presse que dans celle de l'astrologie, comme je vous l'avais dit. Et le problème, c'est que plusieurs fois, c'est ce qu'on voit, c'est que ces escrocs agissent à l'international. Et donc, il semble qu'il y a un réseau qui est bien, bien plus grand à l'international. Et donc, moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait des choses maintenant à aller chercher de ce côté-là, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et finalement, c'est peut-être qu'il y a d'autres projets de recherche à engager. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.